Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue dans l'After. C'est la 22e nuit de l'After qui continue en direct des États-Unis, en direct de notre studio new-yorkais. L'After est en direct sur RMC, bien sûr. L'After est en direct sur la chaîne YouTube de l'After jusqu'à 5h du matin. L'After, première radio de France, comme toujours. Et l'événement ce soir, c'est évidemment les 16e de finale qui continue. On va analyser tout cela, débattre de la Coupe du Monde avec Daniel Riolo qui est avec moi. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Samuel Umtiti également avec nous ce soir. Salut Samuel.
Bonsoir à tous.
Analyse d'Espagne-Autriche dans quelques secondes. On dira également tout sur Portugal-Croatie qui démarre tout à l'heure à 1h du matin, sans oublier l'équipe de France qui joue après-demain face au Paraguay. Conférence de presse aujourd'hui avec Barcola et Koundé. On les entendra tout à l'heure. Et puis l'actu du jour, pas mal d'actu aujourd'hui à partager et bien sûr pas mal de débats qui en découlent. L'Espagne vient donc de battre l'Autriche 3-0. Victoire tranquille, on va y revenir dans quelques instants, à 1h du matin donc, Portugal-Croatie, et demain matin très tôt le match Algérie-Suisse qui sera également à vivre sur RMC demain matin, coup d'envoi à 5h pour Algérie-Suisse. Alors pour revenir sur la victoire de l'Espagne face à l'Autriche, l'Espagne qui au tour suivant affrontera le vainqueur de Portugal-Croatie, donc on pourrait avoir peut-être un match Portugal-Espagne qui serait une sorte de derby entre voisins évidemment. Pour analyser ce match, on a avec nous Edgar Grollo qui suit le foot espagnol toute l'année et qui est à Madrid toute l'année, sauf en ce moment puisqu'il est à la Coupe du Monde. Salut Edgar.
Salut Gilbert, salut tout le monde.
Et qui dit Autriche dit forcément Polo Breitner parce que c'est l'une des dépendances de Polo.
On a toute l'équipe là, les dépendances, les...
Bien sûr, salut Polo.
Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde.
Bon, Polo, on parlera également de Jürgen
Klopp un peu plus tard. En ce moment, l'Allemagne éliminée, l'Autriche, il s'en fout un petit peu, mais encore, il faut qu'il nous parle d'une défaite. Le pauvre, il est pas verni quand même.
Polo, il a une certaine.
Moi, la Coupe du Monde, c'est les huitièmes. Le reste, c'est pas intéressant. Donc.
Polo, il a une certaine tendresse pour la Suisse, faut le savoir.
Mais c'est pas fait. Hein,
pour la Suisse.
Oui, pour la Suisse.
Ah, donc ça reste à venir encore.
Voilà.
Ah, c'est son dernier espoir, tu veux dire.
Oui, c'est son dernier espoir.
Ah, c'est son dernier espoir, oui.
Exactement. Exactement. Okay. Bon, Sam, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? On a vu une démonstration espagnole, un peu comme la démonstration française de l'autre jour.
Oui, on a vu une démonstration espagnole, c'est leur jeu. Hein. Là, on a vraiment vu leur philosophie. Je trouve que c'est une équipe qui monte au crescendo, même si on n'a pas vu un Yamal décisif comme on l'attendait, mais je trouve que c'est une équipe, ils jouent en équipe comme on a l'habitude de les voir jouer. Moi je trouve que c'est très beau à voir et c'est une équipe qui peut concurrencer l'équipe de France en termes de jeu sur ce qu'ils proposent pour la suite de la compétition.
Tu veux dire ils se sont positionnés aujourd'hui comme la France, comme un vainqueur plus que jamais potentiel.
Pour moi, ils étaient déjà positionnés, même s'ils ont un peu mal commencé. C'était un peu brouillon sur le premier match, mais ensuite ils sont montés crescendo. Mais je trouve que c'est une équipe qui va monter, que face aux gros, ils vont être présents. C'est une équipe qui est toujours présente face aux grosses équipes, j'en doute pas. Mais il y aura un beau duel et surtout sur les prochains tours, ils risquent de retrouver peut-être le Portugal, qui déjà pour moi va être une équipe un peu plus forte déjà. Et ensuite on verra. Mais oui, c'est une équipe qui est potentiellement capable de rivaliser avec l'équipe de France.
Daniel.
Bah écoute, moi j'ai vu comme tout le monde, je pense, une démonstration. L'adversaire n'a pas existé. Qu'est-ce que je pourrais dire que Samuel n'a pas dit? J'imagine qu'il a aimé parce que d'ailleurs je trouve qu'on mentionne assez peu, mais je pense que c'est le meilleur arrière gauche du monde en ce moment. C'est Cucurella, il est dans tous les coups et il est dans la lignée des grands arrière gauche qui ne sont pas que arrière gauche, mais qui sont un élément offensif de qualité. Yamal, je pense qu'il peut encore mieux faire, même si bon, à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quand même toujours quelque chose. Mais bon, c'est huilé, c'est collectif, les buts sont beaux. Ça reste une équipe que j'attendais. On en parlait tout à l'heure dans l'avant-match. J'attendais, comment dire, non pas tout de suite au sommet, mais petit à petit. parce que petit à petit, cette équipe, elle sait de toute façon qu'elle est programmée pour aller loin. Si elle tombe trop tôt, on considérera tous que c'est une surprise et que l'autre, son vainqueur, aura réalisé un exploit. Donc là, elle est en huitième de finale. C'est absolument normal, exactement comme la France. C'est normal qu'elle soit en huitième au vu des qualités qu'il y a dans ce groupe. Donc voilà, c'est une étape supplémentaire de franchie. Mais j'insiste quand même, moi jusque-là, il ne m'avait jamais autant plu que ce soir. Donc on est, comme disait Sam, dans une démarche de progression.
Edgar, toi de ton œil qui suit le foot espagnol là, qu'est-ce que t'as vu?
Oui.
Et puis surtout, on va essayer de trouver quelques points faibles, quelques points de crispation éventuelle.
Bah, non mais justement, bon, je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Surtout, comme Sam disait, c'est une équipe qui monte en puissance et surtout, je pense qu'il faut prendre en compte que, par exemple, leur préparation de la compétition elle est différente que celle de la France, parce que la France, elle s'est dit, ok, nous, faut qu'on soit prêt dès le premier match. On va jouer le Sénégal. Après, on va rapidement jouer la Norvège. Faut pas se rater. Eux, ils se sont dit, on va monter en puissance petit à petit. On sait qu'on a des joueurs qui reviennent progressivement de blessures et nous, notre objectif, c'est d'être prêt pour les matchs à élimination directe. Et ça se voit, ça se sent dans tous les discours depuis le début, qui sont pas du tout alarmistes, même quand c'était un peu plus compliqué. Et là, finalement, on a le match qui va avec les discours, c'est-à-dire qu'on a le match d'une équipe sereine, sûre d'elle, et qui montre de plus en plus ses qualités. Après, ce qu'on peut souligner, et quand tu cherches des points faibles, bah moi c'est ça qui me plaît le plus avec cette équipe, c'est que j'ai l'impression que parmi les favoris pour le titre, c'est peut-être l'équipe sur laquelle c'est le plus, avec laquelle c'est le plus difficile de trouver un point évident où on se dit là ils sont pas bons ou là ils ont une vraie défaillance. Par exemple, j'adore les matchs des Bleus et j'ai adoré regarder les Bleus depuis le début de la Coupe du Monde, mais c'est vrai qu'on est tous d'accord pour dire ok, il y a peut-être un point faible au niveau des latéraux. Là, on a une équipe qui a vraiment du sens à tous les niveaux. On a un 11, je pense, qui a été trouvé avec ce Daniel Mo qui est mais ultra ultra important pour eux, parce qu'il vient se placer entre les lignes, il vient amener le surnombre là où il faut, il a l'œil partout et c'est lui qui permet à tout le monde de jouer à son poste et de jouer sur ses qualités, à commencer par Pedri et à commencer par les ailiers. Et en plus de ça, ce qui est vraiment convaincant avec cette équipe, c'est qu'elle encaisse quasiment aucune occasion. Mais vraiment, c'est l'une des seules équipes.
Alors,
avec le Mexique
à ne pas avoir encaissé. Justement, j'allais dire à Sam, peut-être qu'il y a un point faible, c'est la défense centrale, mais bon.
Non,
du coup, depuis le début de la compétition, elle est très très bien en place. Koubarsi, il est vraiment performant. Laporte, il est serein, tu sens que c'est le patron. Et surtout, Laporte, j'avais pas trop de doutes sur le fait que ça va être le patron parce qu'il a de l'expérience, mais Koubarsi, on sait que c'est un joueur qui parfois a des passes un peu plus compliquées. Là, depuis le début de la compétition, il est quand même super performant et c'est rassurant, je trouve. Et quand tu as autant le ballon et que tu maîtrises autant, même quand tu es un peu moins flamboyant comme on l'a vu sur certains matchs, bah t'encaisses pas d'occasion en fait. Et c'est comme ça aussi que tu gagnes des matchs, et c'est en commençant par là que tu gagnes une Coupe du Monde.
Sam, la stratégie que décrit Edgar là, de monter en puissance et en se disant bon, ben, c'est pas grave si on n'est pas parfait d'entrée, de toute façon c'est pas là que il faudra être au top, ça tu valides?
Ah, je valide. Après, pour moi cette compétition c'est ça, c'est de monter crescendo et être prêt pour ces matchs comme ça, coup près. Comme aujourd'hui.
Faut pas être pressé, quoi, Sam.
Totalement, je suis d'accord. Et je pense que ils l'ont bien compris. C'est une équipe, même s'il y a des jeunes joueurs, mais ils ont quand même de l'expérience. On l'a vu à l'Euro, ce qu'ils ont réussi à faire. Et je trouve que ils ont cette sérénité. Ils savent qu'ils ont pas forcément été les meilleurs lors des matchs de groupe de poule. Et ça se sent. Là, en tout cas, j'ai vu une autre équipe. C'est serein, ça joue bien au foot, défensivement c'est bon, il y a une équipe très structurée et offensivement on sait qu'ils sont capables aussi de mettre en difficulté énormément de défenses. Pour moi c'est ça, la Coupe du Monde c'est là, et comme le disait Daniel, ça fait des jours et des jours, je trouve que la compétition réellement elle commence là, en tout cas pour ces équipes, c'est là que ça commence et ils ont compris ça et ils le démontrent là sur ce match-là.
32-16, un supporter de l'équipe d'Espagne, si vous voulez réagir on vous attend. Tiens, on peut écouter Oyarzabal, mon cher Edgar, t'es prêt à traduire pour Mikel?
Oui.
Oyarzabal, comme ça on va enfin pouvoir savoir si tu parles vraiment espagnol. Attention. Attention, c'est parti.
Gracias, contento por ayudar al equipo, por pasar una ronda más y nada.
Je suis content d'avoir aidé l'équipe, de passer au prochain tour. On est heureux, mais c'est tout. Maintenant, on va se préparer pour le prochain match.
C'est un match compliqué.
On savait que ça allait être compliqué.
física que nos iba a poner las cosas complicadas. Pero
ils
bueno,
ont
creo
une
que
sélection
tenido...
en face qui est
día,
physique, qui nous rend la vie compliquée.
La meilleure version d'Espagne quizás en el mundial.
On a fait un très bon match et on est heureux.
Sobre todo también por el rival que era de mayor entidad que Arabia Saudi.
Bueno,
c'était un rival
también, momentos, sobre todo,
plus réputé que l'Arabie Saoudite. Ouais, on a fait aussi des bons matchs.
De pasar una ronda más, de seguir y nada, seguir.
On est heureux de passer au tour suivant et.
Bueno, la verdad que me da igual. Tengo.
Préférez la Croatie ou le Portugal?
Un amigo, un compañero de equipo. Cada equipo, o sea que el que venga iremos a por ello.
J'ai un coéquipier dans chacune des sélections adverses, donc ça m'est égal et on verra qui arrive.
Voilà,
Très bien.
Ça va, tu valides, il est au niveau, Edgar.
Je valide.
Plus facile à traduire que les Argentins, cela dit.
Ouais, là.
Bah, y a pas les ch. Les Argentins, ils mettent des ch partout à la place des Y et des WL.
Et des J à la place, des Y. Oui, enfin, c'est bon, bref.
Ceci étant dit, c'était pas les réponses les plus passionnantes de l'histoire.
Non, mais il dit un truc. Voilà.
On l'avait compris, mon vieux.
On savait qu'on avait joué contre une grande équipe. Ils les ont désossés.
Oui, mais alors ça, c'est typique de la phrase de footballeur d'après-match. Ouais. D'abord, parce qu'on est gentil, on dit que l'adversaire. Valait quelque chose, parce que t'entends jamais un sportif dire, ouais, on a gagné, mais c'était vraiment des pompes à vélo en face. Ça, moi, si tu me trouves un jour un sportif qui dit un truc comme ça.
Qui, Rudy Garcia?
Alors, tiens, Samuel, question pour toi. Est-ce que ça t'est, honnêtement, faut que tu répondes honnêtement. Est-ce que ça t'est arrivé de faire un match, t'avais gagné, et en face, tu savais que t'avais des pompes à vélo?
Ah, bah oui.
Et ben maintenant,
mais ça arrive souvent, continuer. Non? Tu le dis
maintenant,
pas,
tu vas continuer à être honnête et tu vas nous dire qui.
Non, mais pas des pompes à vélo, mais tu sais, par exemple, tu connais ton équipe. Ouais. Et tu sais, par exemple, avant le match, tu sais, ils sont morts. Ils sont morts, tu le sais.
Ou alors ils sont nuls.
Mais à la fin du match, tu veux pas arriver et dire, ils sont nuls. Et c'est pas possible de dire ça, ils sont nuls. Tu dois trouver la bonne manière de faire passer.
Oui.
Voilà. Mais oui, mais ça nous est déjà arrivé dans l'équipe. On se regarde, on se dit, les gars, oh là là, aujourd'hui, ça va être tellement facile. On le sait, ça.
Bon, dis peut-être pas ça en Coupe du Monde.
Bah, tu gardes un peu
monde,
de.
Non, mais par exemple, en Coupe du Monde, par exemple, en 2018, on savait que, par exemple, la Croatie, on savait qu'on allait se les faire. On savait.
C'était... Pour la finale?
Bah oui.
Ah, avant la finale, vous êtes dit, c'est bon, c'est impossible, on gagne la Coupe du Monde. Waouh, j'adore que tu dises ça.
Bah, bien sûr, bah oui.
Et alors, quel tour vous vous êtes dit, c'est chaud?
Quel tour on s'est dit? En fait, on se l'est pas dit, parce que ça, on va pas se le dire entre nous, il manquerait plus que ça, on se dit, ah, ça va être dur, les gars. Non. Juste, par exemple, la Belgique, on savait qu'ils allaient avoir le ballon, donc on s'est dit, les gars, on va souffrir. C'est pas grave. On leur laisse le ballon, on va souffrir, on va défendre. Mais par contre, on en aura une ou deux, on va la mettre au fond. Ça, oui.
Ah, genre, vous aviez fait le programme avant?
Ah, bah oui, on savait ça. C'est pour ça que nous, on est nés.
Bon, le seul truc que t'avais pas prévu, c'est que ce soit toi qui marque ça.
Ça, je l'avais imaginé peut-être dans mes rêves, mais j'avais pas prévu de marquer là. Ouais,
ouais, t'avais prévu la célébration, donc t'avais prévu un petit peu quand même.
La célébration, je l'avais prévu, mais tu sais, des fois, tu prévois des choses en te disant si je. Mais au fond, tu sais que ça va pas arriver. Mais au final, ça arrivait.
Stéphane est avec nous au 32-16 pour dire un mot de l'Espagne. Salut Stéphane.
Salut, ben merci de me réaccueillir une nouvelle fois dans votre émission.
Tu es le bienvenu, Stéphane. On sait que tu aimes le foot, que tu suis tous les matchs.
Voilà.
Avec les mouettes, bien sûr.
Les mouettes sont encore là et on a même des dauphins dans la baie du Havre en ce moment, donc c'est magnifique, écoutez.
Dans la baie du Havre, tu as des dauphins?
Ouais, on a des dauphins maintenant, Antifère, au Cap de la Hève et maintenant dans.
Ah, j'en ai vu, moi, tout près hier dans le New Jersey, parce que je me suis fait une petite journée plage. J'ai vu passer les dauphins. Tout le monde me disait, c'est infesté de requins. Ce qui fait qu'à un moment, on a vu un aileron. Je vous dis pas, les familles, il y avait les enfants dans l'eau. Ça a été la panique à bord. On a entendu des sifflets partout. Et après, c'était des requins. On a vu que c'était des dauphins.
C'est énorme.
Même Flo Gautreau aurait pu se baigner, du coup.
Ah oui, bon, Flo. Bon, on se rappelle de l'anecdote, ici.
Mais les dauphins au Havre, waouh.
Ouais. Ça fait 2 ans qu'on en a. C'est incroyable. C'est fou. Ouais.
Si un jour, le Havre, New York, c'est la même mer, non? Enfin, le même océan, je veux dire.
Ouais. Ça, c'est éloigné. Il y a de la Manche à l'Atlantique.
Pas le même côté, quand même. Donc l'Espagne t'a impressionné, Stéphane? Qu'est-ce que t'en penses?
juste pour dire franchement, ouais, Espagne incroyable. Et Daniel en a parlé. Moi, j'ai vraiment été impressionné par un joueur, c'est Cucurella, l'arrière gauche. Il est juste monstrueux. Je crois qu'il est impliqué sur les trois buts. Moi, il m'impressionne vraiment. Et bon, voilà, comme je suis prof d'espagnol, vous savez, j'interviens de temps en temps. Et je trouve, c'est un mec qui a une super hype en Espagne. Il a une super image avec dans sa vie privée, voilà, avec bon son gamin autiste, etc. Donc, il touche beaucoup de public. Et très drôle aussi sur les réseaux sociaux. Et footballistiquement, moi, il m'impressionne. Enfin, franchement, super joueur. Donc, c'était juste pour vous dire ça. Parce que franchement, comme Daniel l'a dit, le meilleur arrière-gauche du monde actuellement, sans doute. Quoi, parce que
je pense qu'il va faire un réel. On ne le dit pas beaucoup, hein, Sam. Ouais. Tu ne m'as pas donné ton avis là-dessus. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais moi, je trouve qu'il est vraiment très fort. Hein.
Après, moi, je le connais parce qu'à l'époque, à l'époque, moi, j'étais à Barcelone quand il y était. Il est parti. C'était où? Je sais pas si c'est Retafe ou un club comme ça.
Oui, Retafe.
Voilà. Et on comptait pas vraiment sur lui. Mais honnêtement, parce que moi, je le voyais aux entraînements, c'est un joueur qui a énormément progressé. Personne pensait qu'il allait avoir cette carrière. Je pense, si tu demandes en Espagne, personne n'aurait pu imaginer. Mais au final, c'est un joueur qui a été, travailleur vraiment, et je pense qu'il s'est dit écoute, moi on compte pas sur moi à Barcelone, pas de souci, je vais ailleurs et je vais montrer que j'ai le niveau. Il a montré le niveau, il est parti, il a réussi, mais il a réussi à travailler, il a une constance, mais c'est il le doit qu'à lui-même, parce que vraiment on ne l'imaginait pas du tout. Et même moi, quand je le voyais s'entraîner avec nous, bah je m'imaginais pas qu'il allait arriver à ce niveau-là. Et il est très sérieux, ça soit défensif.
Et je pense que ça va lui faire
la porte.
Mmh. Il est super complet, c'est ça qui fait sa force.
Ouais, il est sérieux, vraiment c'est un joueur sérieux dans
je pense que ça va lui faire du bien de quitter Chelsea, qui est un club où finalement dans sa progression, je trouve qu'il a stagné, parce que c'est un club qu'on comprend pas trop, qui fait un peu n'importe quoi. Et je pense que bon, bah là maintenant le step pour lui avec le Real, si le Real reconstruit une équipe, il va être important. Je pense que ça peut être le moment. Il s'est épanoui, hein, parce qu'il avait été déjà acteur majeur de l'Euro. Là, dans cette Coupe du Monde, on va voir ce qu'il va faire. Mais je pense que le transfert au Real peut lui faire du bien. Ouais.
Stéphane, merci pour les mouettes.
Comme disait notre auditeur, Stéphane, il est super populaire en Espagne. Hein, donc, je pense que ça va lui faire plaisir aussi d'être en Espagne toute l'année.
C'est dingue. Et juste si je peux me permettre, par rapport à Samuel, vraiment magnifique les commentaires et ses interventions. Franchement, super aux conversions. Et juste si vous pouvez, Samuel, pouvez nous expliquer ou m'expliquer rapidement, parce que l'Espagne, quand même, c'est une équipe physiquement qui est monstrueuse. C'est pas des gros gabarits, mais ils défendent comme des, ils sont incroyables. Et Samuel, qui est un très grand défenseur, qu'est-ce qu'il pense de ça?
Bah, je trouve que c'est une équipe qui défend très bien, mais à la perte du ballon, c'est une équipe qui essaie de récupérer rapidement le ballon. Donc déjà, tu fournis beaucoup moins d'efforts quand c'est comme ça, en récupérant au bout de 3-4 secondes le ballon, que de défendre bas, de courir, d'aller à gauche, à droite, et c'est beaucoup plus facile. Et ils ont ça en eux, c'est leur ADN depuis très longtemps. Et même si, et j'ai remarqué là, ils sont capables aussi à certains moments d'être un peu plus un bloc assez bas, et de défendre en agressant le porteur du ballon, mais ils mettent pas deux minutes pour récupérer le ballon. Donc pour moi, ils ont le coffre pour le faire tout le match, ça, de récupérer 3-4 au bout de 3-4 secondes. Et pour moi, c'est une facilité, et tu récupères beaucoup plus après. Quand ils récupèrent le ballon, ils ont une possession qui peut durer une minute. En une minute, tu récupères rapidement. Donc oui, ils ont la capacité d'enchaîner les matchs et d'être bons défensivement, parce que ils ont compris que en défendant de cette manière-là, ils allaient récupérer des ballons, ils allaient avoir beaucoup plus le ballon. Et quand tu as le ballon, tu cours pas derrière le ballon et tu récupères. Donc je trouve que ils ont trouvé cette recette-là. Et ça, il y a peu d'équipes qui arrivent à le faire. Il y a peu d'équipes qui arrivent à le faire. Et ça, c'est l'équipe d'Espagne. Mais dans le championnat espagnol, il y a énormément d'équipes qui jouent comme ça. Donc c'est une facilité pour les joueurs quand ils sont dans leur championnat de faire ça, et ils arrivent dans leur équipe nationale de faire exactement la même chose.
Je remercie Edgar et Stéphane. Stéphane, merci, à très bientôt pour reparler foot en direct du Havre. Edgar, à très vite également.
À très vite.
Dans un instant, on est de retour. On va avec Polo parler un peu de l'Autriche, et puis aussi de Jürgen Klopp qui se positionne pour prendre la suite de Nagelsmann.
Est-ce qu'il se positionne, ou est-ce que c'est une sorte de recours? Est-ce que c'est De Gaulle en 58?
Ah ouais.
On est tellement dans le marasme, c'est la dernière cartouche.
Ou Platini c'était 88, c'est ça? Quand on appelle Platini pour remplacer Henri Michel.
Ah ouais.
Et qui dit j'ai pas pu refuser.
Ouais.
peut-être. Bon, on va en reparler dans quelques instants, bien sûr. Sans oublier l'actualité de l'équipe de France.
Vendroux sera pas dans le coup, là. Si Klopp.
Peut-être Polo.
Ça sera sans putsch.
Faut toujours faire attention à l'influence de Polo sur le football allemand. On en reparle dans quelques instants. Sans oublier l'équipe de France et Bradley Barcola qui s'est exprimé aujourd'hui. Barcola a-t-il définitivement assuré sa place dans le 11 de départ? On en débattra tout à l'heure avec Samuel Umtiti. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
Vous écoutez l'After, il est 17h23 ici dans le studio américain de l'After Foot. Daniel Riolo est là, Samuel Umtiti également. Et là, il est 23h23 en France. Alors, on a un petit changement. C'est notre dernière émission à nous ici dans le studio américain. À partir de demain, on rentre et on finira la Coupe du Monde à Paris. Alors, on verra où. Il y aura quelques surprises sans doute. À venir, bien sûr. Nicolas Jamin reste ici encore quelques jours. Karine Galli également. Bref, le principe est simple. De toute façon, vous ne ratez absolument rien de tous les matchs sur RMC jusqu'au bout de la nuit, s'il le faut, évidemment. Et d'ailleurs, tiens, à propos, petit message concernant nos podcasts de l'After Foot, parce que il y a des difficultés de lecture de podcasts de l'After sur Apple Podcast. Donc,
Apple, ils veulent nous saborder ou quoi ?
Je sais pas. Enfin, la mécanique est très simple. Il suffit d'aller sur les applis RMC, RMC Sport. Où là tout est nickel, tout est en ordre, tout est dispo, ah oui, tout est gratuit.
Venez à la maison, quoi. La maison, c'est le site RMC, voilà. L'appli RMC.
Venez sur les applis RMC. Et si jamais ça ne marche pas sur Apple Podcast, vous avez une solution de repli tout à fait efficace. Voilà. Polo, est-ce que l'équipe d'Autriche aurait pu faire mieux aujourd'hui? On n'a pas vraiment l'impression.
Ben non, c'est un déclassement très clair et j'ai presque envie de dire c'est un retour en arrière si tu rajoutes le match contre l'Argentine qui a un peu la même configuration et surtout c'est pas une progression par rapport à l'Euro 2024 où les Autrichiens étaient sortis du groupe où il y avait la France, la Pologne et avaient battu notamment les Pays-Bas. Donc c'est vraiment décevant, il faut le dire, hein. Donc évidemment c'est l'Espagne est largement au-dessus, mais ça te classe un petit peu ce qu'est l'Autriche aujourd'hui, donc parce que c'est une mauvaise Coupe du Monde très très clairement, hein, parce que la victoire contre la Jordanie ne compte pas, et il y a ce 3-3 contre l'Algérie, puis encore une fois ils n'ont pas existé contre l'Argentine de Messi, puis là c'était une démonstration espagnole, donc évidemment c'est très décevant. La seule excuse que je peux trouver c'est qu'il y a un joueur très très important dans cette équipe qui s'est blessé juste avant la Coupe du Monde, c'est Baumgartner, qui empêche tous les schémas tactiques habituels. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec le jeune Vanner de 20 ans qui est pas encore prêt et mature pour ça. Donc honnêtement, c'est très très décevant la prestation, mais la domination technique espagnole est largement supérieure, la domination physique aussi, ce qui moi me surprend quand même, parce que l'une des forces de l'équipe autrichienne, c'est ce qu'a mis en place Ralf Rangnick, c'est du contre-pressing à tous les instants, etc. Alors ils ont ni réussi à le faire contre l'Argentine, ni
comme quoi même un coach comme Rangnick, un professeur et ouais. Tout quand il a pas les joueurs.
Ouais, mais c'est pas des mauvais joueurs, hein, l'équipe d'Autriche. Hein.
Je sais, je regarde la compo, je me dis que mais bon, il y a pas beaucoup de bons manieurs de ballon. Il peut y avoir le côté pressing contre pressing qui est un peu sa marque de fabrique. C'est vrai, mais là on l'a pas beaucoup vu.
Non. C'est pour ça que ça pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est la limite de cette équipe autrichienne? Parce qu'en plus il va y avoir des départs. Hein. Arnautovic, c'est sûr. À là-bas on verra. Donc c'est vraiment la vieille garde qui risque de partir. Je vois pas spécialement un réservoir pour remplacer ce genre de joueur.
À là-bas pour arrêter la sélection?
Bah, il a 33-34 ans, donc faut aller jusqu'à l'Euro quand même. Donc Arnautovic, c'est sûr. À là-bas, on verra encore. En tout cas, toutes les caméras autrichiennes étaient sur David Alaba juste après la fin de la rencontre.
Bon, Sabitzer à 32 aussi.
Sabitzer à 32, mais lui, il peut aller encore. Il y a des bons joueurs, c'est pas la question, mais il manque toujours deux paramètres, et c'est pour ça que on parle toujours de la galaxie Red Bull. Il manque toujours un grand attaquant comme en Nationalmannschaft allemande, et il manque un grand gardien, et on va voir ce que va nous sortir l'Allemagne à la place. C'est-à-dire qu'on produit des milieux de terrain. Le problème, tu disais, Dani, il n'y avait pas de manieur de ballon. Romano Schmid, c'est pas mal du tout. Paul Vanner, il a 20 ans, c'est pas mal du tout. Il y a des joueurs qui sont pas mauvais, mais le problème, c'est que quand
c'est juste que quand tu joues contre l'Espagne, après, l'écart, il est tellement important.
Ah ouais, c'est ça,
l'Autriche a déçu, mais c'est pas le meilleur tirage quand même.
Ben, c'est sûr, mais quand même, 16e, moi, j'aurais bien aimé qu'il... Parce qu'en fait, bon, ce match-là, c'est quoi? C'est un troisième match de poule dans l'ancienne formule, en fait. Et c'est ça qui était intéressant.
Parce que l'Autriche, ils ont fait deux de la poule, on est d'accord?
Oui, ils ont fait deux.
Et l'Algérie a fait trois. C'est ça. Et l'Algérie joue la Suisse, alors que l'Autriche joue l'Espagne, tu vois. Bon, écoute, tu pouvais gratter un tour de plus, hein, si tu jouais les Suisses, hein.
Ouais, mais c'est encore une fois, c'est la prestation globale. Moi, j'espérais une augmentation du niveau. Ils avaient fait des belles choses à l'Euro 2024. C'est à peu près la même composition d'équipe ou le même groupe en tout cas. Et là, j'ai l'impression quand même qu'il y a. Enfin, pour moi, c'est quand même un déclassement par rapport aux top équipes mondiales aujourd'hui. Parce que encore une fois, il faut rajouter le match de l'Argentine avec celui de ce soir. L'Argentine, ils ont rien vu face à l'Argentine. Il y a eu que 2-0, mais ils ont strictement rien vu. Donc je sais pas, c'est assez décevant. Même le match contre l'Algérie, le 3-3, étant un petit peu fou et j'ai pas bien compris tactiquement ce qui se passait dans cette rencontre, parce qu'il y avait des buts trop faciles qui arrivaient à des moments bizarres. Donc voilà, moi je suis assez déçu en fait parce que j'ai vu de l'équipe autrichienne. Donc il y a ceux optimistes qui vont dire l'Autriche est revenue en Coupe du Monde, mais comme on invite tout le monde maintenant, donc c'est un peu normal. Mais j'aurais préféré avoir l'Espagne. Voilà. Enfin, c'est difficile si tu veux d'analyser ce genre de rencontre quand tu te fais déclasser de cette façon par l'Espagne.
Ah oui.
Et je suis d'accord
Sam,
avec
tu sauves un truc côté autrichien, Samuel, ou rien du tout?
Non, rien. Pour moi, rien.
Très bien, on passe à la suite.
Non, clairement, elle avait pas le. Il y avait une différence de niveau entre les deux. Il y a rien d'autre à dire.
Bon, Paulo, profitons de ta présence, donc, parce que Jürgen Klopp, donc, qui est consultant hein, pendant la Coupe du Monde, là, sur les médias allemands.
Réussite, d'ailleurs.
Ah ouais, il est pas bon, consultant?
Bah, c'est pas qu'il est pas bon, c'est que je suis pas sûr que son humour passe partout, quoi. Il se fait recadrer par Rudi Völler. Ouais, il fait des vannes, il dit ses vérités, qui sont pas forcément toujours bonnes à entendre. Et donc, quand il se retrouve. Ah,
pourtant, ça fait pas peur aux Allemands, habituellement, ça, Polo.
Non, mais le problème, c'est que les mecs en face, ils ont le droit de répondre. Et quand t'as Rudi Völler qui est en face, Jürgen Klopp, il s'en prend un petit peu. Il a dit, il y a un duo, en fait. C'est Thomas Müller et Jürgen Klopp. Donc, les deux ensemble, ça fait presque un groupe de comiques, et c'est un peu ce qu'a ressenti Rudi Völler.
Mais c'est genre des blagues comment? C'est un peu sarcastique, c'est vraiment drôle.
Ouais, mais c'est pas forcément pas des analyses qui vont très bien ou ça tombe pas bien, mais tu sais, Jürgen Klopp a perdu beaucoup de sa crédibilité depuis quelques temps déjà, en étant parti dans la galaxie Red Bull. Et puis là, je vous rappelle qu'à Leipzig, Ole Werner, le coach, a été démis de ses fonctions, et d'après les informations qui remontent d'Allemagne, c'est Jürgen Klopp qui a la manœuvre, et on n'a pas aimé ça parce qu'il n'est pas habitué à ce genre de manœuvre, on va dire. C'est plutôt quelqu'un qui fait les choses ouvertement, qui dit pourquoi ça va pas, etc. Et ça faisait plusieurs mois qu'il voulait dégager Ole Werner, qui a quand même ramené Leipzig en Ligue des Champions. Donc même Kicker, tu vois, qui est la bible du football en allemand, mais qui est quand même pas un journal révolutionnaire, a commencé à dire oula, je sais pas ce que tu fais, mon cher Jürgen, mais ça. On a l'impression que ça devient politique, si tu veux.
Maintenant, voilà. Est-ce qu'on va lui demander de prendre la sélection? Est-ce que ça va être l'homme du dernier recours? Parce qu'on a l'impression que la sélection, forcément, après ces trois mondiales ultra décevants, on a le sentiment que là, c'est un peu toute la nation doit se réveiller et doit se serrer les coudes. Et donc, qui d'autre que lui? Je veux dire, quelle autre figure que lui peut emmener l'Allemagne derrière lui?
La première chose qui me semble importante, c'est que quasiment 90% du football allemand, notamment les anciens champions, grands anciens champions du monde, etc., appellent au départ de Julian Nagelsmann, puisqu'au-delà de la prestation de ses équipes, c'est la façon dont il a géré l'équipe, le manque de fitness de l'équipe, les choix tactiques qu'il a fait.
De toute façon, tu ne peux pas rester après un tel fiasco, c'est pas possible.
Oui, d'ailleurs, il faut pas oublier, c'est que même si l'Allemagne est passée dans un match à élimination directe, on considère en Allemagne que c'est pire que 2018 et 2022.
Je suis pas loin de penser la même chose. Mais il paraît que Völler le soutient encore.
Il aurait pris ses distances. J'ai bien commencé à prendre ses distances. Il se fait que beaucoup de personnes en Allemagne appellent à ce qu'on ait une décision relativement rapide, et non pas comme ça s'est passé avec Joachim Löw à l'époque, ou avec Hansi Flick lorsqu'il y a eu les échecs. C'est-à-dire, tout le monde part en vacances 5-6 semaines, tout le monde oublie, puis finalement on continue avec le sélectionneur en place.
Oui, je comprends.
Là, il semblerait que disent bon, c'est fini. Ensuite, évidemment, c'est Jürgen Klopp le favori pour prendre la succession. Lui-même, dans une façon assez où il avait l'air d'un tribun a fait comprendre qu'il comprend que la nation s'intéresse à lui, Jürgen Klopp, vu son palmarès, tu vois, il a quand même un peu le boulard, il y a des moments, mais il dit c'est pas le moment, il faut faire le bilan, etc., bien comprendre ce qui va, ce qui ne va pas. Donc évidemment, ça pousse pour que ce soit Jürgen Klopp. Il y a une seule chose qui me dérange, moi, avec
c'est Jürgen logique, Klopp. Non, Polo, quelque part, c'est logique, à un moment là, après de tel. Tu vois, c'est un petit peu, je vais faire un parallèle, c'est ce que l'Italie a pas fait quand, après les fiascos, il fallait aller chercher Ancelotti, qui a préféré se barrer au Brésil. Et pour certains, ça a été vécu un peu comme une trahison. S'il y avait une sélection à prendre, il a tout le temps tourné autour et finalement, il n'est pas venu. Bon, voilà. À un moment, est-ce qu'il ne faut pas prendre la grande figure, celui qui en club a réussi au moment où ça ne va pas, quoi, tu vois. Alors, on y va.
C'est possible. Par contre, ce qui me plaît, c'est que, à la différence, parce que vous savez, ça fait quelques années que je vous dis qu'il y a un problème mental dans cette équipe allemande et que, le fait d'avoir développé des joueurs techniques pour essayer d'avoir un football attrayant, etc., mais qui ne gagnait plus forcément, bah, au bout d'un moment, tu perds l'ADN de ce que fut le foot allemand. Eh ben, moi, j'apprécie, et je t'ai envoyé un SMS pour ça, Daniel, qu'un joueur comme Sami Khedira, qui faisait partie de la révolution allemande de Jürgen Klinsmann.
Bah, champion du monde, c'était un sacré joueur, Khedira, très grand joueur.
Que lui, disent, alors que tous les vieux, excusez-moi le nom, les vieux cons, Anxilien comme Matthäus et tout, et j'en faisais partie, nous, on voulait encore voir les vieilles valeurs allemandes, c'est-à-dire qu'on le combat sur le terrain, et ben lui aussi dit, ça ne sert à rien d'avoir des joueurs super formés, parce qu'à la fin, on n'a que des joueurs superbement losers. Et je trouve cette phrase extraordinaire.
Mais pourquoi fait que ce soit lui qui le dise? Parce que toi, tu le mets parce dans la période de la Nouvelle-Allemagne, mais la Nouvelle-Allemagne a été championne du monde avec lui.
Mais oui, justement, mais ça va jusque-là. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'à l'époque, il y avait encore des Philipp Lahm, il y avait encore des Schweinsteiger, il y avait encore des joueurs qui avaient connu l'ancienne Allemagne.
T'as encore un œil que, enfin, tu vois, l'équipe de 2014, pour moi, c'est, quand même, t'as encore de ce qu'on, je sais pas, ça fait un peu cliché de dire ça, du proto-allemand, quoi, tu vois, c'est.
Non, ça avait changé.
Schweinsteiger, Manuel Neuer, je vais pas refaire Philipp Lahm, on va refaire, Klose devant. Il y avait encore du lourd, quoi.
Ouais, mais c'est le break, il a lieu à la Coupe du Monde 2006. Tout ce qui est après, en fait, parce qu'après, Klinsmann, évidemment, il a son assistance et Yogi Löw, lui, il fait toute la révolution. D'ailleurs, il ne veut plus de chef. Et là, la notion de chef revient d'une façon très importante en Allemagne avec ses absences de joueurs de réaction. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos de Kimmich qui cherche des joueurs pour tirer les pénalties.
Pour les Allemands, ça doit être horrible de voir ça.
Et donc, on ne veut plus de ça. On veut faire le ménage.
Goretzka, il se fait allumer d'ailleurs un peu ou...
Oui, mais c'est pas que Goretzka, c'est un peu tout le monde. C'est-à-dire que quand on voit la façon, on en prend beaucoup à Nagelsmann.
Sam, t'as suivi cette histoire-là?
J'ai suivi.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Samuel, de ce truc-là? Quand
le pauvre Jonathan Tah, là, qui a jamais tiré de sa vie, on l'envoie au charbon, il rate.
Ça, c'est une chose. Mais qu'on voit l'image d'un capitaine qui cherche des tireurs, qui semble se défiler. Sam, l'image, elle est terrible. Ça envoie un message vraiment de losers, de types qui sont pas prêts à être là, quoi.
Dans une spécialité allemande.
J'ai du mal, sachant que l'Allemagne, pour moi, c'est une grosse nation et que, avec des gros joueurs et qu'on en arrive à là, pour moi, ça prouve vraiment qu'ils sont dans le mal total et qu'il y a un truc, il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'une nation comme ça où Kimmich doit chercher des tireurs, non, c'est pas comme ça. Normalement, tu dois aller pour ta nation, tu dois tirer, t'es l'Allemagne.
Ah, ça fait loser, quoi.
Il y va. Ouais, ça fait loser. Je sais pas si c'est le mot, mais ça fait pour moi une équipe qui a pas cette confiance là. C'est des joueurs qui sont pas en confiance pour pas aller tirer des pénalties.
Bah, il faut oser le dire. Ça fait taille de froc XES.
Aller tirer des pénalties en Coupe du Monde, c'est pas simple.
Oui.
C'est pas simple du tout. Mais je trouve quand même que ça manque totalement de leader dans cette équipe. Et ça
bien
fait
sûr,
des années. Et je pense
c'est
que
le gros problème.
Le fait qu'ils arrivent pas à avancer dans les Coupes du Monde qui sortent aussitôt. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas, et je pense qu'à l'époque, comme là, vous étiez en train de le dire, il y avait des grands joueurs, comme là, il y en a, je pense, mais dans la personnalité, plus ces joueurs-là, dans l'équipe d'Allemagne, il y en a plus. Kimmich, ok, peut être le seul. Il en manque tellement, et pour aller loin dans une compétition, t'as besoin d'avoir des joueurs avec cette personnalité-là.
Polo, merci beaucoup, on suit le dossier.
Si c'est Jürgen Klopp, rappelons-lui, sa spécialité, c'est le 4-3-3 quand même. Et quand tu fais un 4-3-3 avec les joueurs qu'il y a aujourd'hui, bah, t'en élimines un paquet. Donc je me demande ce que ça pourrait donner si on avait un Jürgen Klopp qui voudrait reconstruire une équipe d'Allemagne. Parce que moi, je l'ai vu jouer toute sa carrière professionnelle, enfin d'entraîneur, pardon, quasiment de la même façon. Donc je trouve ça c'est intéressant, mais en tout cas, ça pousse pour lui. Est-ce que ça va se faire? J'en suis pas persuadé. Ce qui est sûr, c'est que même la fédération semble va prendre la décision d'ici une semaine, normalement.
Merci Polo, bonne soirée.
Merci à vous, ciao ciao.
Dans un instant, l'équipe de France, Bradley Barcola en conférence de presse avec Jules Koundé. On retrouve Fabrice Hawkins dans quelques instants, on entendra Barcola entre autres. Et puis on aura l'avis de Michel Platini sur Olysée. Toujours intéressant, entre meneurs de jeu. A tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
Il est 23h41. En France, il est 17h41 ici dans le studio américain de l'After. Daniel Riolo est là, Samuel Umtiti avec nous également. L'After qui évidemment est là jusqu'au bout de la nuit parce qu'à 1h du matin tout à l'heure on suivra le 16e de finale entre le Portugal et la Croatie. D'ailleurs d'ici 1h on sera avec Gareth de Jesus, il nous dira tout de ce qui se passe au Portugal où on en veut beaucoup aux sélectionneurs. Hein. Là on est, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est sur une sorte de Domenech portugais et qu'il est détesté par tout le monde.
Franchement, d'abord il y a les prestas. Deux, il y a ce qui est sorti de sa relation avec Cristiano Ronaldo. Comment veux-tu que ça ne frise pas le scandale? Pour quand une affaire comme ça sort, il y a, si derrière c'est pas une autoroute où tout le monde est ravi du jeu de l'équipe, tout le monde est ravi de la star, là, Dalida.
Oui, c'est comme ça que tu appelles Cristiano Ronaldo désormais.
Il faut que ce soit béton. On peut pas apprendre comme ça que l'autre il va rejoindre le club de son joueur. Enfin, franchement, c'est limite en politique, on serait quoi, en plein conflit d'intérêts là?
Ah oui, là, je pense que c'est le mot qui conviendrait.
Non, là, c'est derrière pour faire un truc pareil, derrière, faut que ton équipe ce soit béton. Hein.
Même dans une entreprise privée lambda, d'ailleurs. Entre concurrents, bref, on en parlera tout à l'heure dans le détail avec Gary. Mais pour l'instant, l'équipe de France, Bradley Barcola tout à l'heure en conférence de presse et Fabrice Hawkins qui est avec nous. Fabrice, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Fabrice.
Barcola est doué donc à 48 heures du match face au Paraguay. Il y avait forcément beaucoup de questions. Est-ce qu'on a beaucoup questionné Barcola sur sa concurrence avec Doué?
Non, pas réellement. Il y a eu.
Pourtant, c'était la question principale à lui poser, non?
Oui, mais en fait, c'est que Bradley Barcola, il répond avec
des bonnes questions. C'est toi le meilleur.
Je t'ai pas dit que la question n'avait pas été posée. Je te dis simplement que il n'y a pas eu énormément de relances et de par le positionnement et les réponses de Bradley Barcola, bon, tu sens bien qu'il a pas très envie de se pencher là-dessus. Je lui avais posé la question d'ailleurs juste après la dernière rencontre contre la Suède et on a bien compris que les deux s'entendaient très bien. Ils se donnent des conseils à la pause. C'est ce qu'avait dit Bradley Barcola. Donc ils ont vraiment une super entente, que ce soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain. Après voilà, eux ils sont devant le Didier Deschamps et ils vont bien évidemment se plier à son choix qui n'est pas encore fait de ce que je sais. En tout cas, l'entraînement est en train de se tient en ce moment même à Boston. Il est à huis clos évidemment, donc on peut pas voir exactement ce qui se fait, ce qui s'y passe. Mais Didier Deschamps compte vraiment les maintenir sous pression tous les deux
pour avoir la compo. Les espions.
au moins 24 heures avant le match. Écoute, on va essayer. On va essayer. Même si à mon sens, il n'y aura pas de mise en place ce soir. Pour l'instant on y arrive toujours.
Ça ne sert à rien. C'est demain que les bébés faucons ramèneront l'info.
A priori oui. Il y a aussi cette volonté de la part de Didier Deschamps.
Oula, le faucon non.
Alors le bébé du faucon s'appelle le poussin.
Le poussin.
Bah il dit voilà, le petit du faucon appelé poussin.
Et le faucon il fait pas avec la poule.
Bah écoute, ça peut aussi des poussins.
Un faucon avec une fauconne.
Et bah écoute, c'est comme ça. C'est un nom générique. D'ailleurs.
C'est quoi le faucon, la femelle du faucon?
La
femelle du faucon.
Entre
les faucons quand même.
Alors attends, je te cherche ça. C'est la fauconne. Ah. C'est la fauconne. FAU, c'est O, 2 E, n'y voyez aucune malice. on va l'écouter, Bradley Barcola, parce qu'en revanche, il a parlé du Paraguay. Et là, il fait une comparaison qui est assez intéressante. Il nous dit, en fait, moi, avec le PSG, j'ai quand même l'habitude de jouer contre des blocs bas et c'est ce qui va se passer contre le Paraguay. On écoute.
On sait que ça va être compliqué. Après, pour ma part, je commence à avoir l'habitude avec la Ligue 1. On joue beaucoup d'équipes qui jouent bas, donc alors essayer de trouver des alternatives, se venir dans les pieds, repartir. Et après, ça va le faire.
Ouais. Alors, Sam.
Après, ça va le faire. Je pense que la conclusion est nette.
C'est assez intéressant parce que est-ce que tu penses que dans le duel à distance, Barcola doué, est-ce que Barcola est plus l'homme de la situation face à ce type d'équipe?
Bah, face à ce type d'équipe, je dirais oui et non, mais on peut utiliser les deux. Mais c'est vrai que on a la possibilité d'avoir un Bradley Barcola qui va en profondeur. Qui va en profondeur et face à ces équipes-là, t'es obligé de chercher, même si t'en as peu, parce qu'ils jouent sur un bloc bas, mais t'es obligé de chercher le moins de petit espace dans la profondeur. Et c'est avec Barcola que tu vas trouver, parce que t'as pas mal de joueurs qui demandent dans les pieds. Et si t'en rajoutes un avec Désiré Doué, je pense qu'au bout d'un moment, ça va être un peu trop facile pour cette équipe de Paraguay de défendre. Mais pour moi, c'est un atout majeur d'avoir un joueur comme lui pour utiliser la profondeur. Mais ensuite, avec la qualité qu'on a...
Enfin, encore faut-il qu'il y ait de la profondeur, parce que si le Paraguay installe un double bus, ça va être moyennement profond.
Ouais, mais avec au moins... tu sais que c'est un joueur qui peut demander, même sur un 1-2, tu sais qu'il va redemander en profondeur. Mmh. Alors qu'on sait que Désiré Doué, il est plus dans le 1-2, tu me redonnes dans les pieds, j'essaie de trouver une frappe un peu de loin, même s'il peut rentrer dans la surface, mais il y a moins cette qualité-là pour moi d'aller dans la profondeur, même s'il n'y en aura pas forcément beaucoup. Mais oui, d'utiliser un joueur comme Barcola, ça peut être très 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 intéressant pour l'équipe de France.
Daniel, tu valides ?
Doué, de toute façon, que ce soit lui ou Barcola, si la problématique, ça doit être le bloc bas, Doué, il est largement capable de passer également en dribble, en percussion, en un contre un. Moi, je vois pas en quoi l'un apporte plus que l'autre. Ce qui fait la différence, selon moi, entre les deux en ce moment, c'est la dynamique. On est dans une dynamique où Barcola semble correspondre mieux au jeu de cette équipe-là. Je ne crois pas que ce soit le fait de jouer un bloc bas qui fasse qu'on choisisse l'un plutôt que l'autre, mais plus l'association. Et l'association du moment fait que le quatrième homme, puisqu'il y en a trois qui semblent inamovibles et que c'était juste le quatrième poste qui semblait plus indécis, ce quatrième poste, il semble aujourd'hui dans les mains de Barcola. Il en profite. C'est aussi comme ça, souvent, que se font les groupes dans les compétitions internationales, dans les Coupes du Monde. Il y a parfois quelques postes, on ne sait pas bien ce que ça va donner. Et puis d'un coup, en cours de compète, on ne s'attendait pas forcément. Je crois que c'est Yannick Stopira qui a raconté ça récemment dans une interview, qui disait que quand il arrive à la Coupe du Monde 86, il démarre pas pour être titulaire. Et il avait dit, il raconte dans l'interview qu'il avait dit à un des membres du staff: si on me donne une opportunité, si on me fait rentrer, plus personne ne me sortira de l'équipe. Mmh. Et c'est exactement, je trouve, c'est peut-être comme ça que va se déterminer la place du quatrième homme, mais c'est peut-être ça qui fait que Barcola est en train de s'emparer de cette quatrième position d'attaque. Mais je crois pas que ce soit lié au fait de jouer bloc bas ou pas bloc bas. Ouais, oui, on le sait que c'est un bloc bas, le Paraguay. Hein. Mais parfois, il y a des dynamiques, des moments de confiance. Doué ne semble pas être dans ce moment alors qu'il marche sur l'eau avec le PSG. Et là, Barcola, dès qu'il est rentré contre le Sénégal, il y a eu cette étincelle et cette finition qui, en plus, c'est pas complètement son fort. À Barcola, de la finition, souvent on lui reproche de mieux démarrer que de finir. Et là, il a dégagé une confiance sur ce but, bim bim bim, la balle un peu forte, un peu piquée derrière. Bon, il a ce geste pour fêter son but, très en confiance, et il a enchaîné. Et il est pas mal. Écoute, voilà, il s'est emparé, il a saisi sa chance. Voilà, c'est bien, tant mieux pour lui.
Après, la réalité aussi, on en parlait, Daniel, souviens-toi, c'est que, encore une fois, Didier Deschamps, il apprécie énormément Bradley Barcola, et quand il y a un choix, c'est vraiment du 50-50, je dirais même 51-49 pour Bradley Barcola, ce qui n'est pas le cas au Paris Saint-Germain, parce qu'on parle d'enchaînement et de dynamique. Exactement. Il a quand même marqué Désiré Doué contre la Norvège, et ça n'a pas empêché Didier Deschamps d'enchaîner contre la Suède avec Bradley Barcola.
Ben, je te dis, il y a d'abord quand je parlais, je parlais de la dynamique, mais parfois cette dynamique, elle naît aussi dans le regard du coach, dans cette confiance que le coach va donner à un joueur et l'autre va lui rendre immédiatement. Et dans une aventure comme ça d'un mois, sur des petites choses comme ça, ça peut jouer. Et Barcola saisit sa chance et voilà, tant mieux pour lui. Samuel, t'es d'accord qu'il y a ces dynamiques là dans des
compétitions? Ah oui, totalement, et surtout sur une compétition comme celle-là où on sait que tu dois être bon sur le moment, sur le match. Au final, le coach, il est obligé de se dire, la confiance.
C'est son moment, quoi. Il doit sentir que c'est son moment.
Exactement, c'est pour ça. Donc, il peut pas se permettre de dire, tu sais quoi, lui, je vais lui laisser peut-être l'opportunité, peut-être sur les matchs de poule, mais là, sur ces matchs-là, non, t'as pas ça. C'est ton moment, t'es bien, allez, à toi de jouer.
Mais oui, en plus dans les compétitions internationales comme ça, des histoires d'hommes. Alors je veux pas lui porter la poisse à Barcola, évidemment. Je veux pas le noircir, le pauvre. Mais ça arrive que t'aies des mecs comme ça qui saisissent le moment, la dynamique, et qui pendant un mois vont mettre des buts. Et puis ça se trouve 2 mois plus tard, ils mettent pas un pied devant l'autre. Bien sûr. Qu'ils ont été grisés. Et des histoires comme ça, on sait qu'il y en a plein. On sait qu'il y en a plein. Par parler, tu te souviens de Milan Baros là qui l'espace d'un été avait brillé.
Ah oui, Euro 2004.
C'est arrivé souvent ça, des mecs comme ça et tout. Bah, évidemment Barcola a prouvé avant, il prouvera encore après. Mais parfois il y a des moments comme ça où le gars se sent hyper bien, entente avec le coach, avec les coéquipiers et voilà. C'est comme quand on est ado, qu'on part en vacances un été. On a l'amour estival. On rencontre et ça fait coup de foudre.
Et après, quand tu rentres, c'est la rentrée, tu retrouves ton prof de maths.
Voilà. Et après, tu rentres à la rentrée, c'est fini. C'est fini. T'as plus le bronzage, t'as plus le goût du sable chaud, et c'est fini. Voilà.
Ça sent le vécu, Daniel.
Mais on lui souhaite vraiment pas ça. Voilà.
En tout cas, ce serait un choix fort si vraiment il est titulaire contre le Paraguay, parce que c'est vrai que c'est une équipe qu'on attend retranchée derrière et avec un profil qui est.
Toi qui les suis, avoue que toi-même, tu mets ta bagnole sur le fait qu'il va choisir Barcola.
Ah mais moi je te dis depuis le début du tournoi que quand il y aura un choix à faire, si les deux sont à 100%, il choisira Barcola parce que de toute façon je suis persuadé. Voilà. Mais souviens-toi, on en parlait, t'étais pas d'accord avec moi. Tu me disais que c'est Doué qui allait être titulaire. Tu te souviens de ça ou pas?
Moi,
il y a quelques semaines, on en parlait. Tu me disais que c'était Doué qui allait être titulaire.
Ah ouais, avant ça commence.
Ah oui, non mais avant que ça commence. Et moi je te disais ça va être du 50-50 et Didier Deschamps il apprécie énormément Bradley Barcola.
Ah non, mais alors aucun problème pour le reconnaître, mais une fois que j'ai vu le début et la façon dont là, j'ai compris qu'il y avait un moment à saisir et que ça avait été fait. Après, avec le PSG durant l'année, 1000 fois, les gens disaient peut-être que Barcola est devant et tout. Je disais non, parce qu'on sentait que dans les yeux de Luis Enrique, il y en avait d'autres qui étaient devant lui.
Et tu as toujours eu raison sur le PSG, effectivement. Quand il y a un choix à faire au PSG, il n'y a pas de souci, c'est Doué.
On va conclure sur le dossier Barcola avec Bilal qui est là au 32-16. Bilal, bonsoir.
Bonsoir les gars, comment ça va? Vous allez bien?
Ça va et toi?
Ouais, ça va, tranquille, ça va, merci beaucoup. Bah moi, pour le sujet Barcola Doué, franchement, je pense que Barcola, il a gagné sa place en équipe de France. Pourquoi? Parce qu'il est, en fait, il joue simple. Il va droit au but, il fait pas de chichi, il fait pas de détails, il rentre, il fait son jeu, il prend la profondeur, il joue simple. Quand il peut frapper, il frappe. Alors que Doué, c'est comme au PSG. En fait, Doué, c'est comme au PSG, quand il a la balle, il essaye toujours de faire son gris-gris à droite, à gauche. Il perd en efficacité. Et en club, ça se voit moins qu'en sélection. En sélection, on est en Coupe du Monde. C'est un peu plus sérieux, c'est un peu plus coriace. Et en fait, ça passe pas tout le temps. Alors que Doué, franchement, il va droit au but, en fait. Il joue simple. Il demande la profondeur. Il a la balle dans les pieds. Quand il peut frapper, il frappe. Quand il peut marquer, il marque. En plus, comme l'a dit Daniel, niveau finition, je trouve que c'est pas le même Barcola qu'il y a quelques années en arrière. Donc en fait, je pense qu'en sélection, Barcola, il a vraiment gratté et gagné sa place de titulaire, tout simplement.
Je sais bien, même à la limite de voir ça, je trouve il y a une espèce de principe de mérite, de méritocratie qui se met en place. Il y avait un rassemblement, ils étaient là au départ. Ils partaient certainement pas. Pour ma part, en titulaire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le voyaient pas. Bim, le mec, il gagne sa place. Ah, bravo à lui, hein. Bravo à lui, vraiment.
Ouais, c'est ça. Hein. Moi, je trouve que c'est très sain.
Ouais, j'aime bien.
On a vu que il a pas forcément été très performant, Désiré Doué. Il fait rentrer Barcola, qui est performant, qui est décisif. Et au final, pour moi, c'est une continuité. C'est normal. C'est normal. Et dans ces matchs-là, pour moi c'est limite la logique de continuer avec une équipe qui a gagné, qui a été performante. Pour moi, il n'y a même pas de débat entre qui doit commencer le match. L'équipe qui a commencé le match face à la Suède, pour moi c'est exactement la même équipe qui va commencer sur le prochain match face au Paraguay.
Koundé également en conférence de presse, Fabrice, est-ce qu'on l'a aussi, on l'a questionné sur son niveau actuel?
Oui, et il a répondu qu'il était, qu'il regardait pas tout simplement, qu'il regardait pas les critiques, ce qui pouvait se dire dans les médias, même si ça revient à lui. Parce que Samuel, tu dois le savoir, hein, mais en fait même quand vous regardez pas les joueurs, quand vous regardez pas ce qui se dit, on vous le rapporte ou on vous envoie les captures d'écran. Donc fatalement, il finit quand même par savoir ce qui se dit. Lui explique qu'il est vraiment
en confiance. Des médias ou de qui que ce soit pour savoir s'il est bon ou pas. De toute façon,
oui, totalement. Et puis il dit que surtout que lui. lui explique surtout qu'il est convaincu que lorsque ça va vraiment compter, et notamment sur les matchs qui vont arriver, il va montrer ce qu'il sait faire. Donc en tout cas, il garde confiance. Et il a aussi beaucoup parlé, Jules Koundé, de l'ambiance, du fait qu'ils ont tous à peu près le même âge et que c'est aussi pour ça que ça marche si bien. Et bien entendu, et ça, il pouvait pas y échapper, hein, l'attaque de l'équipe de France. De toute façon, c'est un petit peu la question qui revient souvent. Lui explique que pareil, il a quasiment jamais vu ça en sélection et que il est très impressionné par ce que peuvent faire ses copains de l'attaque.
Et puis alors, j'aimerais quand même réagir à ce qu'a dit Michel Platini, les gars, parce que Platini s'exprime assez peu. Et puis alors, des fois, il est un peu désabusé du foot, il regarde pas forcément toujours les matchs et tout. Il était dans l'after avec nous, rappelez-vous, il y a quelques semaines de cela pour en parler. Mais là, apparemment, Olysée, ça lui plaît. Et il a dit, je cite, Deschamps sera le sélectionneur qui aura rejoué avec un numéro 10. Parce qu'il dit, Olysée a toutes les qualités pour être un numéro 10 comme avant. Voilà ce que dit Platini. Il dit, le football moderne a tendance à mettre les créateurs sur les côtés. En club, Olysée joue sur le côté droit, comme Yamal qui joue sur le côté. Mais là, Didier Deschamps, et c'est l'intelligence de l'entraîneur, a su s'adapter aux qualités de ses joueurs. Et donc, il a mis Olysée en 10 dans l'axe.
Je suis très content que Michel Platini, la légende, valide ce qu'on a dit il y a 48 heures dans l'after, puisque exactement, on était exactement du même avis en constatant qu'effectivement, Olysée était une sorte de 10 à l'ancienne. C'était le retour du 10 qui n'existe plus dans le foot moderne. Alors, il faut également préciser que le rythme d'un match de Coupe du Monde n'est pas celui de la Ligue des Champions, que au Bayern, s'il joue en Ligue des Champions avec son équipe du Bayern en étant positionné derrière l'attaquant, ce sera peut-être pas aussi simple qu'avec l'équipe de France. On est sur des, il suffit de regarder les sprints à haute intensité, les kilomètres parcourus, on est quand même sur des matchs qui se jouent à des intensités moindres. Ça laisse un petit peu plus de confort et quelques secondes, dixièmes de secondes de plus pour prendre les décisions et activer les fameuses passes magnifiques qu'il réalise et qu'il fait dans les matchs. Ça peut compter également, mais de toute façon, il est bon partout. De toute façon, c'est un super joueur. Donc peut-être qu'en club, il retrouvera sa place sur le côté. Mais là, en tout cas, dans cette Coupe du Monde et dans ces matchs-là, où pour l'instant, il n'a pas subi une immense pression, sa qualité technique plus un petit peu un peu plus de temps pour décider, puisqu'on n'a pas rencontré d'équipes qui t'ont mis sur grosse pression, fait qu'il se régale.
Samuel,
c'est beaucoup pour ça que le 10 avait disparu. Hein. Il faut expliquer pourquoi il est disparu. C'est parce que l'intensité dans les matchs ne cessait d'augmenter et que le 10, qui a également besoin de temps pour organiser le jeu, avait dans un premier temps reculé. Ça donnait les meneurs reculés. Puis ensuite, effectivement, était un peu décalé sur le côté. Là, s'il a du temps comme ça, effectivement, là, il va régaler. Hein. Il va distribuer.
Hein. Donc, Michel Platini, c'était dans l'équipe. Toi, t'es d'accord avec ce que dit Platini, Sam?
Ah, je suis d'accord. C'est vrai que les numéros 10, on les a un peu mis de côté, ou pour, en tout cas, ça n'existait plus. Cette position-là derrière l'attaquant, la plupart, soit tu jouais vraiment avec deux attaquants en 4-4-2, ou soit tu jouais en 4-3-3, et le numéro 10, tu le mettais soit sur un côté, ou soit en numéro 8, mais pas en numéro 10. Et c'est vrai que ça, moi, ça me fait plaisir. Mais après, il a une qualité technique qui est, c'est incroyable ce qu'il est capable de faire.
Il y a des moments où on le voyait.
C'est pareil, c'est caractéristique du 10 à l'ancienne.
Ouais, on le voyait entre Tchouaméni, parfois, et Rabiot.
Ouais, mais ça veut dire qu'il prépare peut-être une passe longue. Non, moi, ça ne me gêne pas du tout.
Ouais.
Bon, très bien.
Non, du tout, ça dérange pas, parce que ça, c'est sur la préparation d'une action. Mais quand tu vois après sur la fin de l'action où il se retrouve, il est devant. Donc ça, c'est juste quand tu prépares, quand tu veux redoubler les passes ou faire bouger un adverse. Mais après, il est toujours dans les bonnes zones, dans les intervalles. Et non, moi, ça me dérange pas, ça.
Fabrice, et c'est pas étonnant rajouter... d'ailleurs, parce que c'est simplement sur le placement de Michael Olysée, Didier Deschamps demande à Aurélien Tchouaméni de redescendre très très bas avec Dayot Upamecano et William Saliba pour relancer. Donc fatalement, il y a moins de monde au milieu du terrain. Donc c'est pas étonnant en fait de voir ou Olysée ou parfois même Ousmane Dembélé revenir dans le cœur du jeu. Et tu me demandais si j'avais quelque chose à ajouter. Oui, en conférence de presse, peut-être une petite phrase qui est pas passée inaperçue, en tout cas de Bradley Barcola, quand il a été questionné sur son avenir au Paris Saint-Germain. Il a dit qu'il allait voir, qu'il ne savait pas pour l'instant, et que donc il a ouvert la porte entre guillemets, hein, en expliquant que pour l'instant il voulait pas s'en soucier et qu'il verrait ce qui se passe pour lui après la Coupe du Monde. Donc ça, c'est un feuilleton évidemment qu'il faudra suivre avec intérêt après cette Coupe du Monde, l'avenir de Bradley Barcola à Paris ou pas.
Merci Fabrice, tu suis le dossier, tu nous tiens informé évidemment.
Avec plaisir, salut les gars.
Dans un instant, on se projette vers les huitièmes de finale, on fait un petit bilan des 16e qu'on a vu jusque-là, Daniel veut en parler. Pas mal d'infos du jour à partager, notamment ce qui se passe au Sénégal, où le sélectionneur Pape Diop se fait littéralement démonter depuis l'élimination d'hier. Je vais vous expliquer pourquoi, puis on verra si on estime que c'est justifié ou pas. Et puis le match Portugal-Croatie. Alors Portugal-Croatie, les gars, c'est quand même une légende qui va s'arrêter là. En gros, c'est soit Modric, soit Ronaldo. Ah oui, c'est la dernière en Coupe du Monde pour l'un des deux aujourd'hui.
Deux amis, enfin deux joueurs qui ont brillé ensemble.
Voilà, alors lequel va s'arrêter cette nuit. On va en débattre tout à l'heure. On se retrouve dans quelques instants dans les nuits de l'after.
RMC, l'after foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
Il est minuit 5, si vous nous rejoignez dans l'After Foot, la nuit de l'After continue jusqu'à 5h, il est 18h05 ici dans le studio américain de l'After, Daniel Riolo est là, Samuel Umtiti bien sûr, dans moins d'une heure maintenant le match Portugal-Croatie qui promet, on ira prendre des nouvelles sur place évidemment dans quelques instants avec les compos d'équipe, on débattra de ce match dans quelques instants, on va reparler des 16e, de toute l'actu du jour, je vais juste démarrer par... plusieurs choses qui montrent à la fois la puissance mondiale de l'after foot, mais aussi ce qui se passe ici aux États-Unis, parce que hier soir tard, et c'est comme ça tous les soirs, il y a une émission sur Fox, Fox Sport, qui est la chaîne qui retransmet la Coupe du Monde. Et ben en fait, figure-toi Samuel, que sur Fox le soir, il y a un after. Ça s'appelle After Hours. C'est présenté par James Corden, qui est aussi acteur, qui a joué dans plein de films et tout. Et alors l'after américain sur Fox, c'est un grand studio avec plein de ballons, plein de fanions, de clubs de foot, de maillots et tout, du public, et surtout, ce qui pour nous en France est totalement hallucinant, bière sur la table, cocktail, genre bar géant, tranquillement.
Nous, on est en bonne santé, on a des bouteilles d'eau sur la table.
Voilà, voilà, on a des
petite bouteille d'eau là, de spring water. Je suis au top, mais c'est parce que je suis en bonne santé.
Donc voilà, ça c'est le format américain, donc on peut peut-être on va le soumettre à nos patrons.
On rentre avec ça, mais on boit pas.
Bah oui.
Voilà, c'est tout.
Donc nous on reste à l'eau. Voilà. Mais du coup, on est un peu plus lucide pour nos analyses. Et puis alors Daniel, effet mondial de l'after. On parle de l'after foot au Paraguay avant le match dans deux jours.
Écoute, j'ai le regret d'annoncer que je ne pourrai jamais partir en vacances à Asunción.
Ah.
Parce que mes propos sur le Paraguay qui a braqué le match contre l'Allemagne, là, c'est pas passé du tout, là. J'avais pas ouvert Insta, Sam, depuis 48 heures.
Ah ouais, j'ai pas suivi, là.
Après le match, après leur victoire contre l'Allemagne, j'ai dit que c'est un braquage, qu'ils n'avaient rien proposé, qu'il y avait aucune créativité dans cette équipe. En gros, ils faisaient que défendre, quoi. Et là, en fait, je pense que la personne qui m'a pas aidé, c'est Maria Elsa Núñez, qui est une présentatrice au Paraguay, présentatrice télé-radio. Voilà, elle m'a pas aidé, elle. Parce que c'est elle qui m'a interpellé en premier. Et derrière, là, c'est parti. Et là, je suis en train... Je pense que je vais pouvoir créer un dictionnaire des insultes en espagnol. Il y en a que je connaissais pas, il y en a d'autres...
Ouais, donc tu te fais insulter par tout le Paraguay, c'est
ah, ouais, l'histoire. Ouais, c'est, mais franchement, j'ai rarement reçu autant, là. Là, c'est fou, là. C'est fou. Je peux pas les lire, évidemment.
Ah, parce que, d'accord, je pense.
Non, on va pas lire.
Ah non, à l'antenne, non.
On va pas lire.
Oui,
pas
c'est
lire.
Mieux.
On va pas lire.
Ouais. Très bien. Bon, bah, on suit l'actualité, nous aussi.
Beaucoup, hein.
On suit l'actualité paraguayenne avec passion. D'ailleurs, José Luis Laverte, que moi j'ai adoré.
C'est pas culo roto. Tu parles espagnol, Sam.
Oui, je sais pas si on peut le traduire.
Il a dit quoi? C'est quoi?
Frances puto culo roto.
Non, on va pas le traduire. C'est mieux.
C'est tu peux m'envoyer par SMS que c'est, parce que celui-là, je l'ai pas celle-là comme insulte. Mais elle revient beaucoup.
Bah après ça, je pense à des expressions typiques là-bas chez eux. Oui. Mais roto, c'est cassé. Ouais. Je pense que je dois avoir la traduction. Ouais.
Bon, c'est pas trop compliqué à traduire en même temps.
Ouais, c'est pas trop compliqué. Ouais.
Oui, juste sur le Paraguay, José Luis Laverte, que moi j'ai adoré avec Strasbourg, bien sûr, nous a fait gagner une Coupe de France en 2001 en mettant le tir au but de la victoire. Et il a été énorme avec le Paraguay, il avait un charisme de dingue. Mais bon, on va dire que là, depuis qu'il est devenu homme politique, il a légèrement vrillé. Alors sur les analyses foot, il n'est pas trop fort non plus, parce que le gardien du Paraguay, qui a quand même fait des exploits, donc Gilles, contre l'Allemagne, avant la Coupe du Monde, il a dit de toute façon ce gardien il est bidon, donc avec lui on va dans le mur. Donc il avait quand même, comment dirais-je, il avait un coup d'avance, puisqu'en l'occurrence, le mec est super fort. Donc merci José Luis, t'auras mieux fait de te taire. Daniel veut parler des 16e de finale. Jingle Riolo, c'est parti.
Mais voilà, c'est un très bon jingle parce que ça y est, le spectacle a véritablement commencé.
Donc tu nous as dit, tu nous dis depuis 3 semaines que ta Coupe du Monde n'a pas commencé alors qu'elle avait commencé, et non. Maintenant ça y est, elle a commencé,
non,
ta Coupe du Monde.
Elle n'a pas commencé parce que, comme je le dis souvent.
Elle a commencé depuis le 10, non?
Je me suis régalé, moi, Sam, mais bon, Daniel, non.
Bah écoute, je sais qu'on est dans une époque où on veut tout mettre à l'horizontale et on veut se contenter de peu et qu'on peut aller dans n'importe quel resto et dire c'est bon, aller voir n'importe quel film et dire c'est bon.
Match qui était très bien.
Non.
Angleterre-Croatie, c'était très bien.
Oui, ouais, ça.
Brésil, Maroc, c'était très bien.
Ça fait 2.
France-Sénégal, c'était très bien.
France-Sénégal, c'est pas bien. Tu vas pas arriver à 5. T'as voulu te lancer, bien fait pour toi. Vas-y, arrive à 5. Et sans aide de Jimmy, regarde-le, l'Ottawa derrière, il veut t'aider.
T'arrives pas à 5. Le problème, c'est
C'est toi qui t'es piégé tout seul, j'ai rien fait. Sam, t'es d'accord que j'ai rien dit, hein.
Je vais pas piéger tout seul, vu que c'est toi qui essaie de me tendre un piège dans lequel je ne veux pas rentrer.
Moi, je suis ton piège.
Bah, bien sûr, tu t'en piège. Parce que toi, t'arrives, tu veux faire ton pro. Ta vieille méthode qu'on connaît par cœur. Ah ouais, vas-y, cite-moi 5 joueurs, cite-moi 5, je sais pas quoi.
Je l'ai pas fait, c'est toi.
Équateur de police ici.
C'est toi qui t'es lancé. C'est toi qui t'es lancé. J'ai rien dit. Je t'ai pas obligé.
Équateur Allemagne. Voilà, j'en ai un de plus déjà. Pam. Voilà.
Équateur Allemagne.
Et Angleterre Croatie. J'ai déjà cité celui-là.
Équateur Allemagne, c'est un bon match quand. Alors, excuse-moi. Alors déjà.
Bien sûr.
Déjà. Pour moi, un match dans lequel le perdant ne tombe pas dans le ravin, ça ne peut pas être un grand match. Un grand match de football, c'est quand la défaite, quand elle tombe sur l'équipe qui est donc battue. C'est grave. On est dans une situation grave. C'est la fin de l'aventure. Si on n'a pas ça, il ne peut pas y avoir de grand match. Il faut que les deux équipes jouent à la muerte. Voilà. Donc, tes matchs de poule, là, que tu m'as cité, là, aucun.
Et Côte d'Ivoire-Équateur? C'était pas bien, Côte d'Ivoire-Équateur?
Alors, évidemment que le match de poule.
Tu veux que je te dise ça? Je vais te dire la vérité. On était tous les, au restaurant un soir. Il y avait le match Iran-Nouvelle-Zélande. C'est une histoire vraie, hein.
Bah, celui-là, il était bien.
Bah alors, Iran-Nouvelle-Zélande.
Oui, je sais pas.
Tous les jours, tu lui dis qu'il faut jeter ces équipes à la poubelle, qu'elles auront à foutre à la communion. Ce match était très bien.
Alors là, tu essayes de te défendre péniblement parce que je n'ai jamais.
Pays-Bas-Japon, excellent match. Pays-Bas-Japon.
Je n'ai jeté à la poubelle aucune équipe et j'ai toujours précisé que je n'identifiais personne. Je voulais juste qu'on prenne notre temps, qu'on ne s'emballe pas. Exactement comme ceux qui racontent que Olise Mbappé, moi je m'emballe, je suis très content l'autre soir et tout. Mais évidemment, je pète un câble quand j'entends on n'a jamais eu d'aussi forte association en équipe de France. Là, je pète un câble. Ça y est, parce qu'on a mis Griezmann à la poubelle. Platini, on l'a oublié. Zidane, tu vois. En fait, le problème, c'est l'extase. En fait, on est dans une époque où on veut s'extasier de tout et trop vite. Alors que moi, j'aime faire des choix. J'aime prendre mon temps. Voilà. Toi, quand t'arrives à New York, quand tu vas te balader, tu t'extasies pas au premier carrefour. Au premier coin de rue.
Non,
t'attends de savoir qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui va le plus t'intéresser, tu veux prendre.
Mais j'attends pas 3 semaines pour choisir le plus beau carrefour. Tu vois, au bout d'un moment.
Mais le problème, c'est que là, la formule fait qu'il fallait attendre. Donc, je préfère attendre. Je ne validerai jamais cette formule à 48 parce qu'elle permet au troisième de groupe de se qualifier et c'est nul. Néanmoins, maintenant, passons enfin aux choses intéressantes, à savoir les matchs à élimination directe. Et j'ai quasiment vu que des choses très intéressantes. Je me suis absolument régalé du match de l'Angleterre contre la RDC, puisque les Anglais ont commencé par se mettre en grande difficulté. Et j'aime les histoires dans les tournois comme ça. Il y a toujours le joueur providentiel, celui qui prend l'équipe sur son dos. Et ce qu'a fait Harry Kane, j'ai trouvé ça extraordinaire. Vraiment, j'aime quand un événement dans un match me fait bouger de mon fauteuil. J'étais là d'un coup, je me suis remué. Je dis c'est pas vrai. Il a fait ça. Il a pris le ballon. Il est allé mettre cette frappe dans la lucarne et tout. Il a libéré son équipe, son pays. J'aime ces moments-là dans les Coupes du Monde. Ok, j'ai été patient. J'ai préféré attendre pour les voir pendant que vous étiez là à sauter comme des cabris sur vos fauteuils sur un Pays-Bas-Japon à 2 balles. Là, moi j'ai préféré attendre. Voilà. Et donc je suis très content. Évidemment, dans la foulée, en plus, on a eu le Sénégal-Belgique. Alors là, scénario complètement fou. Et donc tout ce qu'on commence à voir là, ça devient intéressant. Voilà, tout va bien. Je suis content d'être rentré dans ma Coupe du Monde. Il a fallu un petit peu de temps, mais moi j'étais pas pressé. C'est vous qui a envie de faire la fête. Vous, c'est les mecs qui arrivent en boîte de nuit à 23h. Alors on sait très bien que personne n'arrive à 23h, t'es d'accord?
Fais gaffe Samuel, parce qu'en fait il te met dedans, hein.
Mais il est d'accord avec moi Samuel, laissez-le tranquille, il a le droit d'être d'accord avec moi.
C'est que, en fait, moi je peux l'entendre sur ça, mais il faut savoir qu'une Coupe du Monde, c'est vrai que les phases de poule, on sait très bien qu'il y aura toujours des matchs où il y aura une différence de niveau. On va pas forcément, quand t'es passionné de foot, tu t'attends pas à ce genre de match. Et c'est vrai que pour nous,
C'est vrai que pour moi, à partir des 16e, là, il y a des matchs beaucoup plus intéressants, ça soit dans l'intensité, ça soit dans la qualité technique, ça soit même la rivalité entre les deux équipes. On voit, et c'est ça qu'on veut, on veut pas avoir un 7-1. Non, on voit deux équipes qui se battent pour gagner.
Il faut pas être pressé, il faut accepter. Quand t'es invité à une fête, t'arrives pas une demi-heure en avance ou pile à l'heure. T'arrives toujours un petit peu après, tranquille. Ils arrivent, tu sais, ils sont en bas de l'immeuble une demi-heure avant. Ils ont peur de plus être invités.
Ouais, ça c'est comme ceux qui vont au concert.
Enfin, les gars, ce que vous dites sur la Coupe du Monde à 48, ça valait aussi à 32. Hein. Il y avait aussi des matchs nazes au début.
C'est du coup, on en avait un peu moins, quoi. On rentrait un peu plus vite dans le vif du sujet. Non, mais de toute façon, ce truc du troisième, ça a donné des matchs qu'on soit été bricolés, soit des matchs où il n'y avait pas le coup près qui tombait sur l'équipe. En fait, tu m'as fait une passe décisive avec le Allemagne-Équateur, où évidemment, sur le papier, ça a sonné comme quelque chose de fort parce que l'Allemagne a été battue. Mais comme l'Allemagne ne risquait rien, ça enlève du sel, en fait. Voilà, écoute, on va pas revenir dessus. Mon avis, c'était vraiment de dire que je commence à passer des très bonnes journées, que ça a été long pour que ça te mette en route. Mais là, entre la démonstration des Bleus, le Angleterre-RDC, le Belgique-Sénégal, là, franchement, on se régale, quoi. Et un match dont on a très peu parlé, Sam, je sais pas si tu l'as vu, parce qu'il était un horaire de fou. Mais le Mexique-Équateur. La première mi-temps du Mexique, j'ai pas peur de dire, Mexique, ça va peut-être choquer.
Waouh.
La première mi-temps du Mexique, c'est la plus belle que j'ai vue dans ce mondial, même plus beau que ce qu'a fait l'équipe de France.
Je sais pas si c'est la plus belle, mais c'est vrai que cette première mi-temps-là, après, tu sens qu'ils sont chez eux.
Phénoménal.
Tu sens qu'ils sont chez eux.
Et les Anglais que j'ai vus hier, c'est pas eux qui vont les retourner.
Ouais.
Il va falloir une autre Angleterre. Dimanche à 2h du mat, falloir être vaillant pour regarder, mais ce match en plus avec au Mexique, encore une fois avec tout le public, ça peut être chaud bouillant.
Ouais.
Alors d'ailleurs, vous savez qu'à propos de ce match, Tourelle n'est pas content.
Ah pourquoi ?
Bah oui, parce qu'il estime que le Mexique est clairement favorisé, parce que Mexico c'est à 2000 mètres d'altitude. Là, eux,
il a commencé à sortir ce genre de boîte à excuses minables.
Bah il dit oui, on n'a pas le temps de s'adapter.
Là, il joue chez le pays organisateur, c'est souvent comme ça en fait.
Ah, exactement. Il va falloir qu'il s'adapte. Tourelle, il explique en quelques jours, ça c'est pas possible de s'adapter.
Après le choc de la montée pour aller jouer en altitude, ça c'est indéniable.
Bon, après attention, hein, 2000
ça va leur mettre une claque.
2000 mètres, c'est pas non plus 4000. Tu vas pas jouer à La Paz.
C'est quand même pas la même histoire si t'as joué au niveau de la mer et d'un coup tu vas jouer à 2000, c'est pas la même histoire quand même. Mais bon, écoute.
Bon, en tout cas, voilà.
Ils vont voir les Mexicains passer comme des avions, parce que contre l'Équateur, ça partait fort. Hein.
Voilà, il dit que c'est un handicap, un gros handicap pour.
Pour clairement, mais c'est le principe de je vais jouer à domicile. Oui, le Mexique, en jouant dans son stade, dans sa ville, devant son public, évidemment qu'ils ont un avantage. Personne ne va nier ça.
Samuel, est-ce que c'est pertinent de comparer le niveau de football qu'on voit à la Coupe du Monde ? Là, notamment ces derniers trois jours, et ce qu'on va voir désormais, avec ce qu'on voit en Ligue des Champions. Certains disent, ouais, mais regardez, en Ligue des Champions, finalement, c'est comparable, mais le niveau reste meilleur. Est-ce que c'est pertinent de comparer? Ou est-ce que ça n'a pas de sens?
Non, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, on voit une intensité qui est bien plus importante sur les matchs et qu'on retrouve pas forcément en équipe nationale.
Le Pays-Bas-Maroc était un match très intense, par exemple.
On s'en fout, c'est des compétitions qui sont différentes. Et puis la Coupe du Monde, ça revêt autre chose. C'est, tu joues pour ton pays, c'est une autre pression. Il y a une autre saveur. Et puis, il y a la rareté, le fait que ce soit tous les 4 ans. C'est un rendez-vous que la Terre entière attend. Tout le monde a les yeux rivés là-dessus. Moi, que les mecs courent 100 km au lieu de 115 ou 120 en Ligue des Champions, qu'est-ce que ça peut foutre en fait? Qu'est-ce que ça peut faire? Voilà, nous on est là pour kiffer pendant un mois pour voir la Coupe du Monde et savoir qui sera le prochain champion du monde. Après, on aura le temps de se replonger dans notre quotidien.
Bon, voilà. Donc, c'est la réponse. Une comparaison n'est pas forcément raison.
Absolument.
Voilà. Dans un instant, le Portugal et puis le reste de l'actu du jour, il y a pas mal de choses à voir. Alors, il y a un truc étonnant, ça, Sam, on va profiter de ta présence pour nous dire ce que t'en penses. C'est que j'ai la liste sous les yeux des joueurs toujours qualifiés au mondial et qui, à l'heure où on parle, n'ont pas de club.
Ah ouais.
Et vous allez voir que dans la liste, il y a du très très lourd. On va en parler dans quelques instants.
Il y en a qui sont en fin de contrat, non ? Qui étaient en fin de contrat.
Tout à fait. Mais là, t'es là, t'es à la Coupe du Monde, t'as pas de club. Bon, c'est quand même une situation un peu étonnante.
En fin de contrat, après, c'est plutôt bien. Si tu fais une bonne compétition.
Ouais, c'est à Paris. Bon, on va en reparler dans quelques secondes. Et puis, on aura les compos également de Portugal-Croatie. La nuit de l'after continue jusqu'à 5h demain matin. À tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 21 en France, il est 18h21 ici aux États-Unis dans le studio de l'After où Daniel Riolo est là, Samuel Umtiti. On va aller prendre des nouvelles du Portugal, de la Croatie. On va débattre avant ce match qui démarre dans 40 minutes, 39 minutes maintenant, ensemble dans quelques instants. Mais d'abord, donc les infos du jour. Donc je vous fais une liste de joueurs toujours qualifiés au Mondial et aujourd'hui sans club. Il y a de quoi faire une belle équipe. Hein. Casemiro, parti de Manchester.
Je ne prends pas.
Fabinho. Plus de contrat en Arabie Saoudite.
C'est un peu de la fin. Là, tu nous annonces des. C'est un peu de la fin de série, là.
Ah, peut-être, mais bon. Mohamed Salah.
Ça, c'est des fringues qui étaient à la mode. Là, on est dans un outlet, mais très très loin. Hein.
Mohamed Salah.
Bah, c'est pareil, pardon. C'est pareil, c'est les anciennes collections. Hein.
Luka Modric.
Ça, tu fais exprès.
c'est la liste. Qu'est-ce que vous voulez? James Rodriguez.
Pareil.
John Stones n'est plus à City. Alaba n'a pas de club. Meunier. N'a signé nulle part pour l'instant. Thomas Meunier.
Meunier, ça n'a pas encore officié.
Thomas Partey, qui en plus des affaires extra-sportives qui le concernent, n'est plus à Villarreal. Ben Taleb, pareil, plus de club. Schlager, l'Autrichien.
Ben Taleb,
fin de contrat.
Bah oui,
avec
Lille.
Il est en fin de contrat.
Ouais.
Lui, il est pas. Lui, il va trouver un club. Il y a pas de...
Bon, voilà. Ah, voilà pour les principaux. J'ai aussi.
Après, le reste, ça fait une belle équipe, mais à l'EHPAD.
Bon.
Non, à l'EHPAD, non.
Modric, tout ça, à la limite, ils peuvent te rappeler et tu rejoues un peu, hein, si tu veux.
Modric, oui, mais d'accord. Mais ils vont quand même trouver.
Bon, le truc, c'est qu'en termes de gestion de carrière, effectivement, quand c'est comme ça, Sam, tu peux signer une belle prime à la signature quand t'es libre.
Oui,
mais là, le mec qui se blesse, par exemple, à la Coupe du Monde, t'es pas bien, quoi.
Ouais, mais ça, c'était déjà à l'époque, hein, ces choses-là de je suis libre, je reste libre pour signer une grosse prime à la signature. Il n'y a plus les mêmes revenus qu'avant. Hein. C'est plus pareil. Hein. Maintenant, les joueurs qui sont comme ça en fin de contrat, la plupart, ils prennent ce qu'ils ont et voilà. Et c'est, à part si vraiment t'es un top joueur, là, oui. Mais sinon, là, l'heure actuelle est en fin de contrat. C'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Et il n'y a pas vraiment. Comme à l'époque, oui, cette prime à la signature qui était importante quand tu étais en fin de contrat et que tu signais dans un club.
Bon, à suivre donc le parcours de ces joueurs. J'aimerais qu'on parle un peu du Sénégal, parce que Pape Thiaw se fait complètement dézinguer au Sénégal depuis hier, par un peu tout le monde, les supporters, les médias. On cite une gestion humaine et tactique catastrophique, ce qu'on dit au Sénégal, c'est ça. Et alors, cerise sur le gâteau, Pape Gueye, qui est quand même un des meilleurs Sénégalais sur le terrain de la Coupe du Monde, a fait un message Instagram hier en disant « Je me retire de la sélection tant que ce staff technique sera en place ». En gros, je veux plus avoir affaire à eux. Donc, en général, quand un joueur fait ça, c'est qu'il y a quand même un gros souci entre au moins une partie de l'équipe et le sélectionneur.
Bah déjà, il faut rappeler quand même que au début de la Coupe du Monde, était sortie l'information disant qu'il n'avait pas de contrat et qu'il se passait des trucs pas bien à l'intérieur du groupe, que les joueurs étaient pas contents, et on avait bien senti que l'information elle était pas venue comme ça par hasard. Qu'elle avait été instrumentalisée ou en tout cas livrée à des journalistes et qu'elle sortait du camp du sélectionneur. Puisque la réponse de la Fédé était un peu opposée à cette première information. Et là, clairement, on a senti qu'il y avait une forme de scission. Est-ce qu'on est allé jusqu'à sentir assez que la scission, elle était à l'intérieur du groupe même? Ça, peut-être pas. Quand j'ai lu la déclat de Pape Gueye, qui est un joueur important de cette sélection, là, clairement, il y a rupture avec le sélectionneur. Alors quand c'était quoi? C'était au mois de janvier?
Bah oui.
La CAN? Ça s'est quand même très vite dégradé, hein. Très très vite dégradé.
Mais
de toute façon, c'était pas un hasard quand l'information au début de la Coupe du Monde est sortie comme quoi c'était le bordel et rien n'allait.
Condition d'hébergement, ils n'étaient pas contents, certains joueurs commandaient leur repas à l'extérieur.
Moi, à ce moment-là, j'ai échangé avec quelqu'un de la Fédé qui m'a fait comprendre que ce qui se disait, il fallait faire attention et que il y avait un petit peu de l'instrumentalisation des médias pour faire passer des messages. À l'arrivée, je constate qu'il avait peut-être raison et que le groupe s'est fracturé autour du sélectionneur qui pourtant il y a 4 mois était un peu idole au pays quand même.
Tiens, je vous lis un extrait d'un journal sénégalais. Le titre, c'est « Comment le coach a offert la qualif à la Belgique ».
C'est sûr que le scénario l'aide pas.
Il y est, le coup de poignard de la 120e porte la signature exclusive de Pape Thiot. C'est un naufrage historique. C'était pas celui des joueurs, mais celui d'une gestion humaine et tactique catastrophique en choisissant de reculer massivement, en installant un climat de peur avec des changements irrationnels, notamment le remplacement suicidaire de Pape Thiot, de Pape Gueye par un Lamine Camara complètement dépassé. Ça envoie, hein, la presse sénégalaise, ils rigolent pas.
Non, mais c'est sûr que le scénario.
Ils sont déçus, comme disait Daniel. Voilà. Le scénario est dingue, une remontada comme ça. Et c'est vrai que quand tu fais sortir Pape Gueye, qui est sûrement l'un des joueurs les plus importants au milieu de terrain, qui t'apporte cet équilibre-là, et sachant qu'il avait les jambes, on ne le sentait pas forcément fatigué, tu te poses un peu des questions. Donc oui, c'est normal que le peuple, on va dire, sénégalais se pose des questions, mais il y a quelque chose qui se passe dans le net et correct. Il faut creuser, je pense, pour savoir un peu ce qui se passe entre le groupe et le sélectionneur.
Alors, il y a autre chose sur les sélections africaines qui tournent, mine de rien, là. C'est cette fameuse gestion de la fin de match et, on va dire, parfois le manque de sang-froid de certains. La RDC est menée 1-0 et ça a tourné en fin de match. Bon, ok.
Ouais, enfin, là, qu'est-ce que tu veux dire? Les RDC, ils sont largement inférieurs aux Anglais sur toute la rencontre. C'est déjà formidable qu'ils mènent 1-0. Après, ils résistent.
Le Paraguay a tenu, par exemple. Tu vois?
Ok, bah peut-être qu'en face, il y a pas Harry Kane et il y a pas Bellingham, et qu'à force de taper, ils ont fini par rentrer, les Anglais. Ils frappaient à la porte, ils ont fini par rentrer et défoncer la porte. Les RDC, franchement, par rapport aux qualités qu'il y a dans l'effectif, bon, déjà, t'es sorti de la poule, t'as joué ton 16e, t'as pas un tirage favorable parce que tu tombes contre l'Angleterre. Que les RDC se fassent taper par l'Angleterre, oh, regarde sur le papier la qualité des joueurs, ce que ça vaut sur le marché. Moi, jamais je vais aller taper sur la RDC. Ce qu'ils ont fait hier, déjà dans le match, franchement, c'est bien. Parce qu'en plus, ils n'ont pas fait exactement comme le Paraguay. Les RDC, ils n'ont pas monté un mur en ciment. Ils ont essayé de sortir parfois, tout ça. Aucun reproche pour la RDC. Tu perds contre l'Angleterre et contre un Harry Kane qui était en feu. Bon, non, rien à dire.
Bon, en tout cas...
Qui d'autre t'avais dans
la RDC?
Tu voulais mettre en avant peut-être une...
La Côte d'Ivoire aussi, fin de match. Tu vois, ils se prennent des buts en fin de match. Donc, sur les 5 dernières minutes, à chaque fois, les équipes africaines se sont fait avoir.
Bon, est-ce que tu vois, je n'ai pas leur fin de match en tête.
Je vais te retrouver le scénar. Donc, cette nuit, il y a l'Algérie. Voilà, il faut bien blinder la... Bien blindé la
France. Ouais, mais enfin, tu vois, je vois pas en quoi ce serait un point commun. Enfin, genre, moi, ça va être le point commun à un continent.
Bah, il s'avère que c'est arrivé.
Ça va être un petit peu réducteur de dire ça. Je pense que chacun a sa culture, chacun a sa façon de voir le foot. Surtout, en plus, la qualité des joueurs aussi, c'est ça qui peut faire. Est-ce qu'ils ont de l'expérience? Est-ce qu'ils ont joué des matchs de cette importance-là? Est-ce que plus.
But de la victoire de la Norvège à la 88e contre le Sénégal, contre la Côte d'Ivoire.
Ah oui, mais c'est
le but d'Allende.
Oui, le match de poule. Oui.
Non, c'était là le 16e.
Ouais, oui, le 16e, oui, pardon. 16e,
Côte d'Ivoire,
bon, ça me revient. Ouais, bon, mais pareil, Côte d'Ivoire, non, je
bon, enfin, voilà.
Je vois
bon.
Pas en quoi la gestion de fin de match, là, surtout qu'à ce moment-là, il y a un partout.
Oui, il y a un partout.
Ouais. Non, je sais pas.
Tu
faisais référence à la phrase de Rudy Garcia.
Alors Rudy Garcia, pour finir sur l'affaire, Rudy Garcia fait polémique, il a fait une sorte de démenti aujourd'hui. Il a dit, je cite, on connaît ces équipes, ils perdent la maîtrise tactique vers la fin de match. Alors évidemment, tout le monde a dit, mais pourquoi il parle de quoi? Il veut parler des équipes africaines, là?
Juste lui demander.
Puisque la RDC était dans le même cas, puisque la Côte d'Ivoire était dans le même cas.
Je sais pas, il faut lui demander quelle équipe il visait. Est-ce que
et en fait,
des
aujourd'hui, il a dit,
non,
mais pas du tout, je parlais pas des équipes africaines, mais je parlais de ces équipes qui mènent et puis qui, en fait, perdent un peu les pédales. C'est de façon générique, pas du tout.
Rien n'est clair dans ce qu'il dit. Il faudrait qu'il précise de quoi il a envie de parler. Et après, on pourra répondre et essayer d'analyser. Là, je comprends pas trop ce qu'il veut dire. Franchement, je vois pas. Je veux pas l'accuser de quoi que ce soit. J'aimerais juste comprendre ce qu'il veut dire parce que c'est vraiment. Après, les analyses de Rudy Garcia, qu'elles soient à côté de la plaque, c'est souvent quoi. Donc,
deux petites infos pour conclure avant de parler du Portugal.
Samuel, t'as compris quoi dans ce qu'il dit?
Bah moi honnêtement j'ai essayé de comprendre et au final j'ai pas forcément la réponse parce que tu sais pas quel genre d'équipe, tu sais pas de qui il parle, tu sais pas ouais, donc au final j'ai pas envie aussi d'interpréter de faire une mauvaise interprétation, mais c'est vrai qu'il faudrait lui demander clairement de quelles équipes il parlait quand tu dis de ce genre d'équipe là,
voir s'il se défile dans la réponse ou si vraiment il assume quelque chose et après on se penchera sur le truc, mais là Et combien même, ce serait quoi? Ce serait les équipes africaines. Si on va dans l'analyse du pire, ouais. de l'interprétation. Et quoi, genre elles tiennent pas tactiquement ou.
Il dit ça, il dit au final. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est quelque chose de méchant? Est-ce que c'est
moi, okay. Écoutez ce qu'il a publié sur Instagram. Rudy Garcia, il dit, pour revenir sur la déclaration d'après-match et couper court à toute ambiguïté, en parlant de ces équipes-là, je sous-entendais les équipes qui n'ont pas l'habitude de gérer un avantage dans ce type de match de ce niveau de la Coupe du Monde. En aucun cas, je ne visais les équipes africaines et aurais pu tout aussi bien viser des équipes asiatiques, sud-américaines, européennes qui ne sont pas habituées à ce genre de pression. Voilà. Voilà ce que dit.
Là, c'est complètement con parce que le Sénégal, ils ont. Si le Sénégal subit pas de la pression quand il joue la CAN, ou par exemple, ne serait-ce que la dernière finale de la CAN en termes de pression, non. Enfin, après, tu peux accuser le Sénégal d'avoir mal géré la fin de match, d'avoir trop reculé, d'avoir fait plein de choses pas bien. Mais si le Sénégal doit entrer dans la catégorie, ces équipes-là, en plus, c'est que des mecs qui jouent en Europe, qui ont l'habitude de. Non, là, ça me paraît pour le coup complètement con comme phrase, du coup, là.
Deux petites infos, les gars. Vas-y, Sam.
Je pense qu'il devrait vraiment plus se focaliser sur son équipe, moi, au lieu de parler du fait que les autres équipes ne peuvent pas. Après, au final, les gens vont commencer à mal interpréter, ça va très, très vite. Et là, on le voit, que les gens commençaient à dire certaines choses, mais. Mais après, c'est comme vous l'avez dit, sûrement c'est du Rudy Garcia.
Sachez que l'UEFA, qui déjà avait expliqué qu'elle ne mettrait pas en place les fameuses pauses pub dites cooling break pendant ces compétitions.
L'UEFA.
Oui, l'UEFA. Oui, l'UEFA a dit aujourd'hui qu'il ne suivrait pas la FIFA sur les cartons rouges pour les joueurs qui se couvrent la bouche. Voilà, on n'appliquera pas cette règle dans nos compétitions.
Alors, ça, moi, je me souviens. Enfin, moi, j'ai été quand même. Pris dans une tempête au moment de l'affaire Vinicius. Parce que, comment il s'appelait l'Argentin ?
Ah, l'Argentin de Cristiani. L'Argentin de Prestiani. L'Argentin de Benfica.
Où j'ai dit, si on a la certitude qu'il a vraiment dit ça, il faut que le mec soit suspendu à vie. L'insulte, qui était une lourde, lourde insulte raciste. Et j'ai dit, le problème, c'est que tout le monde est hypocrite. Parce qu'après, on n'agit jamais. Derrière, il y a eu le cirque avec Mourinho, il y a eu le type qui a dit « j'ai pas vraiment dit ça, j'ai dit ça comme ça, machin ». Et ce soir-là, on avait commencé à évoquer le fait de, effectivement, quand tu mets la main devant la bouche, bah écoute, on va dire « arrête de la mettre », et puis si tu la mets pas, comme ça, il y aura pas le doute, il pourra pas dire « j'ai pas dit ça » ou « j'ai pas vraiment dit ça, machin ». Et l'UEFA, qui donne des leçons sans arrêt, qui fait toutes ses campagnes antiracistes, qui fait tous ces trucs-là et tout ça, là, ils arrivent, ils interviennent, ils disent « non, nous, on n'appliquera pas cette règle ». Bah, c'est complètement con. Applique-la, la règle. Comme ça, au moins, les mecs ne pourront pas se cacher si vraiment il lâche une insulte de ce type-là. Tu vois, là, moi, je comprends pas. Là, moi, je comprends pas que l'UEFA fasse ça, quoi. Là, vraiment, ça peut paraître absurde de prendre un carton rouge pour ça. Ça peut paraître absurde, mais une fois que les mecs l'auront complètement intégré, eh ben, au moins, tout le monde assumera ce qu'il a à dire, et s'il veut insulter un type, ouais. il aura qu'à assumer son insulte, et puis voilà. Alors après, oui, on va me dire, ah ouais, mais alors dans ces cas-là, fils de, ça va passer, et l'insulte raciste, ça va pas passer. Oui, il y a une différence. Il y a quand même une grande différence. C'est pas du tout la même chose. Donc.
Ouais, il y a une grande différence.
C'est même pas qu'il y ait une différence. Il y en a un, c'est, en tout cas, dans certains pays, c'est du pénal. Dans d'autres, peut-être pas. Mais en tout cas, si on veut vraiment arrêter ce genre d'insultes-là sur les terrains, si on veut plus en voir, il faut agir fort. Moi, j'avais dit ça après le Real Benfica. Si tu attrapes le mec, comme dans le public, quand un mec lâche une insulte ou jette, je sais pas quoi, il a interdit de stade à vie, bah, le joueur de foot qui se livre à vraiment une insulte aussi lourde que celle qui est, parce que finalement, on l'a jamais su, ce qui avait été d'histoire. Bah, il faut agir fort. Donc,
allez, l'UFA, les gars, on s'arrête.
Je comprends pas pourquoi l'UFA fait ça.
Parce que nos reporters nous attendent pour Portugal-Croatie. On y va tout de suite. Compo des équipes, débat, bien sûr. Le match démarre dans maintenant 25 minutes. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
Il est minuit 36 en France, il est 18h36 ici dans le studio américain de l'Afterfoot. Daniel Riolo est là, Samuel Umtiti. Et le premier match de la nuit, après la victoire tout à l'heure de l'Espagne face à l'Autriche 3-0, et bien c'est Portugal et Croatie qui va démarrer dans 25 minutes avant Algérie-Suisse tout à l'heure à 5h du matin. Aurélien Tirsa est là avec les compos d'équipe. Aurélien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous. Et côté Portugal, on a évidemment Cristiano Ronaldo à la pointe de l'attaque. On rappelle que ce sera son 9e match à élimination directe dans une Coupe du Monde et qu'il n'a jamais marqué dans un match comme celui-là. À ses côtés, Rafael Leao à gauche, Pedro Neto à droite. Le milieu attendu, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves. Les latéraux, Nuno Mendes à gauche, João Cancelo à droite. Renato Veiga et Ruben Dias dans l'axe, Diogo Costa dans les cages. Évidemment, et du côté de la Croatie, bah, tous les vieux sont là. Livakovic dans les cages, derrière Pongracic, Soutalo dans l'axe, Stanisic à droite, Perisic à gauche, Modric, Kovacic dans l'axe du milieu de terrain, Susic, Baturina et Vlasic pour les milieux offensifs. Et puis devant, on va retrouver Ante Budimir, il n'est pas tout jeune non plus, il a 34 ans, l'attaquant d'Osasuna.
Très bien, reste avec nous. Gary De Jesus est là également. Il suit la sélection portugaise et aussi la sélection brésilienne. En gros, les lusophones. Il nous parle pas trop du Cap-Vert, mais peut-être qu'il se dit faut pas trop en parler parce qu'ils vont se faire allumer par l'Argentine. Mais bon, en tout cas, Gary est là. Salut Gary.
Salut Gilbert, salut à tous. Et on croise les doigts pour le Cap-Vert hein, contre l'Argentine.
Bon, la compo, t'en dis quoi?
Bah, on est étonné de voir Rafael Leao côté gauche. C'est la principale information de cette compo. Parce que tout le reste, c'est de l'attendu. Il n'a pas fait la folie qu'il avait fait au match précédent en enlevant João Neves. Je mets en avec Ruben Neves, mais en remettant João Neves. Et ouais, non, Rafael Leao, c'est la principale information de cette compo. Après, on attendait peut-être le retour de Bernardo Silva à la place de Pedro Neto, mais apparemment, Perisic fait un peu peur à Roberto Martinez, donc il met un joueur qui va cavaler sur ce couloir.
En même temps, Leao, il suffit de compter les 50 derniers matchs. Vu qu'il en fait un de bien sur 10-15, il faut voir si la moyenne, ça peut peut-être tomber ce soir.
C'est ça, je suis d'accord. Raphaël Leao, il a plus l'habitude de nous décevoir que de faire de bons matchs. Que ce soit avec,
je sais pas, tu dois savoir mieux que nous quand remonte son bon match. Hein. S'il y en a 15 qui sont passés sans qu'il était bon, ça peut être ce soir, on sait jamais.
Écoute, je te trouve un peu dur son entrée contre la Colombie.
Mais c'est une entrée. C'est une entrée.
Ah oui, là, tu veux, sa titularisation.
Ah oui, bah quand tu entres à un quart d'heure de la fin avec un ballon qui te passe sous le nez, que tu mets une frappe lucarne, je sais qu'il a assez de talent pour être capable de faire ça, ou même percuter, éliminer. On sait qu'il est capable de faire. Moi, je te parle de quand tu comptes sur lui, que tu investis sur lui, que tu le mets dans une équipe. Là, on sait très bien que son irrégularité, elle est tellement énorme que je le disais avec ironie, mais t'en es presque à compter les matchs. Oui, il a mis un but là, la frappe en lucarne où il venait de rentrer, il avait même pas transpiré encore. Le maillot, il était tout sec, il avait le front, il était encore tout beau, tout propre.
Écoute, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai plus souvent été déçu que ravi par une entrée ou même une titularisation de Rafael Leao. Pour te dire la vérité, j'ai pas de souvenir d'un gros match de Leao avec le Portugal là comme ça en y réfléchissant. Mais tout à l'heure, vous parliez des joueurs qui étaient en fin de contrat et Rafael Leao, c'est un joueur qui veut partir. Il l'a déjà dit. Donc ouais. J'espère qu'il va vouloir
tu apportes un élément supplémentaire. Oui, ça peut lui donner l'occasion de se montrer pour que quelqu'un fasse la folie d'aller lui filer un gros contrat. Ouais, c'est vrai. Mais franchement, je sais pas qui va lui donner quand tu regardes ses stats et son passé. À mon avis, il va baisser en salaire et en taille de contrat, Léo, parce que les gens commencent à comprendre un peu.
Non, je sais pas, mais on peut miser sur lui hein, quand même hein. On peut miser sur lui encore une fois hein. Parce qu'il n'est pas bien âgé. On sait qu'il est capable.
Franchement, à Milan, ils ont fini par s'arracher les cheveux.
Ouais, je sais. Il était inconstant, mais on sait que, honnêtement, s'il arrive à garder cette régularité, c'est un joueur top, 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 vraiment. Mais bon.
Raconte-nous Martinez qui devient une sorte de Raymond Domenech portugais.
Alors, effectivement, en fait, c'est la principale cible des critiques au Portugal, c'est Roberto Martinez. C'est-à-dire que tous les joueurs hein, ont eu leur part de critiques ici. Le milieu qu'on annonçait, le meilleur milieu du monde, on se demande où est-ce qu'il est passé, ce meilleur milieu qu'on attendait tant. Nuno Mendes, on a l'impression de voir son frère ou son cousin. Et Bruno Fernandes, il est à la recherche désespérée d'inspiration. Donc tout le monde y est passé.
Quand t'as des joueurs de cette qualité, forcément, on se tourne vers le coach, parce que les joueurs que tu viens de citer, c'est des mecs qui en club sont incroyables, quoi, tu vois.
Et sans parler de Cristiano Ronaldo, bien sûr, où c'est le deuxième plus critiqué derrière Roberto Martinez. Mais Roberto Martinez, on n'y croit plus trop au Portugal, à tel point que on pourrait faire le parallèle avec Domenech, où où on espère. D'ailleurs, il y a la numérologie où on peut faire le parallèle un peu marrant avec Domenech parce que c'est aussi un fan de numérologie.
Mais non.
Ce qui fait un peu peur.
Oh mon dieu. Oh mon dieu. Alors là, j'ai vraiment peur pour vous là. Oh non.
Ce qui fait un peu peur, ouais, parce qu'il y a tout le côté 2016, chiffre qui termine avec le 6, etc. Il y a un peu une pensée positive autour de ça au Portugal. On se raccroche à ce qu'on peut avec ce qu'on a vu en phase de poule. Le fait qu'on soit en 2026, 2016, etc.
Aussi, regarde un peu s'il y a des scorpions dans l'équipe, tout ça, ou pas trop.
Bah, heureusement, la comparaison avec Domenech s'arrête à la numérologie, et sauf si on n'est pas au courant, mais j'ai jamais entendu parler d'astrologie pour parler de Roberto Martinez. Mais c'est surtout sur le fait que on espère que le Portugal va, si le Portugal va loin, c'est qu'il y aura à un moment donné une autogestion où ces joueurs, avec toute la qualité qu'ils ont, font quelque chose d'eux-mêmes sur le terrain et qu'il y a un déclic. Et on l'attend ce soir, parce que ce soir, c'est plus permis de se rater.
Ah ben là, sinon, c'est la porte. Hein.
C'est ça. Et puis surtout, on fait des parallèles avec 2016 aussi, parce que c'est la phase éliminatoire en 2016, elle avait commencé avec la Croatie aussi. Un match très compliqué où Ricardo Quaresma marque un but en prolongation. Et on espère faire le parallèle parce que c'est celui qui nous avait amené jusqu'au bout. Donc le Portugal rêve de ça. Mais là, ce soir, on attend clairement la sélection au tournant, parce que Roberto Martinez nous a parlé de phase de préparation, même pour la phase de poule. C'est-à-dire qu'il est un peu aligné sur la théorie de Daniel, où même cette première phase de poule, c'était une phase de préparation pour le Portugal, et que la deuxième Coupe du Monde commence réellement aujourd'hui. Donc là,
comme les Espagnols l'ont montré tout à l'heure.
Exactement. Tout le monde les attend au tournant. Mais bon, on est le Portugal.
Tu sais, t'as dit quelque chose qui ne fait pas.
Ouais. Dis-moi.
Excuse-moi. Non. Vas-y, termine ta phrase. Excuse-moi.
C'est-à-dire que il fallait un petit piment pour ce début de soirée au Canada. C'est-à-dire que la sœur de Cristiano qui sort de l'hôtel de la Célessa, où on s'attendait à une zone mixte ultra banale avec toutes les télés du Portugal qui lui tendent le micro, et elle nous annonce entre deux réponses que ce sera la dernière Coupe du Monde de Cristiano. Donc là, c'est un tollé énorme ici, parce que même si on s'y attend,
c'était évident,
il n'allait pas jouer jusqu'à 70 ans en même temps, non?
Bah, bizarrement, ça, on pense qu'il en était capable de faire un autre Euro par exemple.
On pense qu'il est immortel, quoi, en fait, au Portugal.
Ah, donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que peut-être que ce soir, c'est son dernier match avec le Portugal, si jamais le Portugal est éliminé.
Exactement, c'est ce qu'elle a sous-entendu. En fait, dans sa réponse, oui. elle a dit ah oui, ce soir, ça peut être la dernière danse de deux grands joueurs, en parlant de Modric d'un côté et de Cristiano Ronaldo. En disant ça, sans se rendre compte de l'importance de ce qu'elle disait, du coup, les journalistes l'ont relancé. Et elle a dit oui, peut-être que ce soir il faudra dire au revoir à Cristiano. Et elle s'est tout de suite reprise en disant non, pas pour le football en général, hein, mais pour la sélection, pas pour les clubs. Et donc il y a eu d'autres questions sur ce sujet-là. Et elle a dit ah oui, d'après mes informations, c'est certainement la dernière Coupe du Monde de Cristiano. Et ce sera sa dernière compétition avec la sélection. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu bizarre, hein, c'est un peu spécial, la famille de Cristiano dans l'univers médiatique portugais.
C'est une sorte de famille royale, hein. C'est un peu famille royale.
Bah, moi, je les compare souvent aux Tuches, un peu, ici au Portugal. C'est un peu le mot Tuche.
Bon. Oui, donc j'étais en train de dire, pardon, quelque chose qui n'a pas à voir avec ça, mais tu m'as alerté tout à l'heure quand tu as souligné les performances de Vitinha, de Neves, de Nuno Mendes. Si on élargit un peu, est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser sur les joueurs du PSG? Quand tu les sors du système et de papa Luis Enrique, est-ce que c'est si facile que ça de s'adapter à un autre environnement? C'est une question
qui a été abordée dans quasiment tous les débats que j'ai pu voir au Portugal, que ce soit dans des podcasts, à la télé, à la radio, etc.
Parce qu'on a Dembélé en équipe de France qui est obligé de jouer complètement différemment et qui est en train de s'adapter, mais on sait qu'il a été l'objet de critiques. Il y a les trois Portugais qui marchent sur l'eau au PSG, qu'on voit quand même moins fringants.
Hakimi, j'ai pas l'impression que ce soit...
Hakimi, ça va avec le Maroc. Ouais, ça va.
Ouais. Et João Neves aussi, c'est un peu la lumière au bout du tunnel portugais quand même. Hein.
Ouais, quelques-uns quand même, hein. C'est une vraie question.
Mais pour Vitinha, on voit clairement la différence.
Mais ce serait pas étonnant. quand tu joues dans une mécanique aussi bien huilée, avec un système aussi précis, moi je tombe pas de l'armoire de savoir que quand tu sors le joueur du contexte, que tu le mets dans un autre collectif avec d'autres personnes, ça marche pas aussi bien. Je trouve que c'est pas.
Et d'ailleurs, il y a un joueur qui a fait les frais de cette hype Paris Saint-Germain, c'est Bernardo Silva. Parce que Bernardo Silva, au début, Roberto Martinez, fidèle à son image et fidèle à son historique, n'a pas fait de choix en voulant mettre Bernardo Silva à droite. Mmh. Au final, depuis, on l'a plus revu. Il est juste rentré quelques minutes contre l'Ouzbékistan en fin de match, alors que le Portugal menait.
Ah ouais, parce que quand t'as des mecs qui sont aussi forts en club, t'as toujours peur qu'on dise, oh les gars, ouais, t'as vu ce qu'il fait toute l'année, le mec qui vient de gagner deux Ligues des Champions et tu le fais pas jouer. Donc forcément, si.
Mais c'est intéressant ce côté Bernardo Silva, parce que même lui, il est dans le même rôle que Vitinha. Là, cette saison avec Pep Guardiola, où vraiment il a changé de rôle. Et on lui a posé la question, c'est quoi ton rôle préféré ou ta position préférée? Et il a essayé de répondre avec honnêteté. Et d'ailleurs, le Portugal est pas bon depuis le début de la compétition, mais en conférence de presse, on est les champions du monde. On a vraiment des mecs qui expliquent, des mecs qui essayent d'être honnêtes et qui mettent leur trip sur la table, comme des mecs comme Diogo Dalo ou Vitinha ou Bernardo Silva. Et Bernardo Silva, il expliquait que de toute façon, jouer à droite à ce moment-là de sa carrière, et c'est pas quelque chose auquel il s'attendait, et surtout après la saison qu'il a fait, où il était plutôt 8, 6, voire dans le double pivot de City. Donc je pense que déjà ce côté, ça a fait Roberto Martinez faire un choix fort depuis le début de la compétition, comme on dit qu'il en fait jamais pour le coup, mettre Bernardo Silva sur le banc. Tant donné l'historique du joueur dans la Seleção, c'est quand même assez important.
Samuel, faut qu'on dise un mot de la Croatie. Est-ce que tu vois cette équipe vraiment en perte de vitesse, ou est-ce que tu penses que ce soir ils peuvent quand même faire un truc?
Moi, j'ai du mal avec cette équipe de Croatie. Je pense que ils ont besoin de renouveau. C'est pas forcément l'équipe que c'était il y a 4 ans ou même avant. Et ils auront du mal, je pense, face à cette équipe du Portugal. Je pense que ça va être compliqué pour eux aujourd'hui.
Bon, on va suivre ça, bien sûr. Gary, merci beaucoup. On te retrouve après le match, bien sûr, pour analyser tout ça dans la nuit de l'after.
Merci à vous, à tout à l'heure.
Samuel, c'est quoi ton programme, là?
Demain, je fais Australie...
Égypte.
Mais t'es où, en fait, hein?
Moi, je suis à Dallas. Je suis
Australie. Ah oui, c'est vrai que ta base, c'est Dallas, toi. Oui, c'est vrai.
Et
c'est vrai que c'est vraiment génial, Dallas. Tu t'éclates bien?
Je sais pas si c'est ironique, mais ouais, je suis dans ma chambre, donc
ah ouais, souvent. Donc tu t'éclates vraiment bien.
Souvent.
Ouais,
et après, je vais à Philadelphie pour le 8e.
T'es pas allé visiter les puits de pétrole, tout ça, non? C'est fini, ce temps-là est fini. Le pétrole à Dallas.
Non, c'est fini, ça.
Ouais, okay.
Daniel, on se retrouve dans 48 heures dans notre studio.
Ramène-moi
à Paris
un petit baril en souvenir.
On sera là pour l'after de France Paraguay.
Ciao.
Bien sûr. La nuit de l'after continue jusqu'à 5h avec Portugal Croatie dans quelques minutes. À plus et bonne nuit à tous.
RMC, l'after foot. Intégrale Coupe du Monde.